belle soirée de Ligue des Champions. Nous sommes à Bernabéu. L'affiche était séduisante. L'affiche a tenu, pour aller même au-delà de ses promesses. Entre City et le Real et City, 3 partout. Vous ne rêvez pas, score final 3 partout. Des renversements de situation à tous les étages, dans toutes les minutes. On pensait le Real KO, le Real s'est remis. City a été KO, puis s'est remis. Et le Real est ressorti de son KO. Bref, un match ébouriffant. Nous allons le débriefer en compagnie d'un casting haut de gamme, le président Didier Roustan, dans votre ville-peuple, votre contradicteur préféré Dominique Sévrac, Ludovic Obraniak, Joan Micou, votre vice-président, et enfin l'espion du Barça, Rico Blanco de la Plata.
Vice-président.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir, bonsoir messieurs.
Vous êtes content du casting, président?
Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
Je n'achèterai rien, je vous le préviens.
Comment?
Vous avez sorti votre meilleur commercial, mais je n'achèterai rien.
Attention.
Bah, écoute, tu pars de loin. Pourtant, tu devrais acheter beaucoup, beaucoup.
Ça va souffler, il a mis son couvent, c'est normal.
Parce que quand tu verras des commerciales comme ça...
Commerciaux.
Des commerciaux, avec une cravate pareille... Là, il y a un truc, il y a un loup. Mmh. Je te le dis, il y a un loup.
Ok, mes amis, oui, bon, on va continuer dans l'élégance.
Avec plaisir. Hein,
3 partout, c'est le score final. En 30 secondes, résumez ce match.
Ça va être dur.
Ouais, bon courage, Virginie. Allez, bonsoir, on garde mémé. L'essentiel des
bonsoir
images.
Bonsoir tout le monde. Pluie de buts et suspense total avant le match retour. Ça part très vite, très fort avec le but de Bernardo Silva dès la deuxième. Coup franc parfait pour prendre l'avantage. 1-0. Le Real égalise à la 12e. Camavinga dans l'axe qui tente, c'est dévié par Ruben Dias. Qui trompe Ortega. 2 minutes plus tard, les Madrilènes prennent l'avantage grâce à Rodrigo lancé à gauche par Vinicius. Ça touche le talon d'Akanji. 2. Égalisation splendide sur un ballon donné par Bernardo à Stones pour Phil Foden qui vise en pleine lucarne. City reprend l'avantage dans la foulée. Grealish en retrait pour Guardiola. Là aussi, c'est beau. Ça fait 3-2. C'était sans compter la frappe extraordinaire sans contrôle de Valverde à la 79e sur le centre de Vinicius. 3 partout.
Quelle équipe vous a fait ce soir la meilleure impression? D'habitude, c'est une formalité, mais la case MVP, j'ai un problème qui est désigné. Ce soir, le joueur, peut-être MVP, celui qui vous a fait la meilleure impression. On passera évidemment en note. On aura un œil également sur Arsenal, qui est allé faire match nul au Bayern 2 partout. Il y a eu 10 buts en 2 matchs, c'est extraordinaire. Mais pour l'heure, on va ouvrir juste sur un constat, sur un peu d'émotion. Ce soir, on a assisté à un match évidemment particulier, un match particulier entre deux équipes qui se côtoient déjà depuis deux saisons. C'est la troisième. Est-ce que vous avez assisté à un match de légende là? Est-ce que vous attendiez un grand match? Mais là, vous avez été, enfin, vos espérances ont, enfin, la réalité a dépassé vos espérances, les copains.
Match de légende, moi non.
Ah non?
Ah non, il y a des buts, mais c'est pas un match de légende.
Oh. C'est un super match.
C'est un super match, non?
Mais de légende,
Non, mais je parle. Ouais, moi, ouais. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, tu me demandes.
Oui, bah oui.
Tu peux dire que c'est un match de légende. Moi, j'ai d'autres.
Personne dit match de légende. Vous n'êtes pas levé. Vous n'êtes pas dit match de dingue, match un truc qui restera.
C'est différent.
Quoi.
Il y a des buts.
Non, mais match de le match.
Non, mais de légende. On est obligé.
C'est-à-dire que la finale de Coupe du Monde France-Argentine, c'est un match de légende.
Ah oui, là, oui.
Voilà. Donc forcément, après, là, on est sur un carré. Il y aura un retour. On n'est même pas à la demi-finale. C'est aussi le tour que vous jouez qui c'est pas une finale, c'est pas un match qui se décide sur un seul match. Il y a tout un scénario et puis après il y a encore un tableau.
Les gars, juste on va pas s'engueuler sur
Bernard. Bien sûr.
Ce soir, non, ce soir.
Génial. Oui mais c'est...
non mais c'est... alors non, match de non mais c'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Mais ce soir, par rapport à l'affiche Real City, on s'installe, on dit on va voir un beau match. Est-ce que je sais pas, est-ce que la réalité a dépassé vos attentes?
Sentiment, je vais te dire. Il y a beaucoup de buts. City a eu la possession.
Oui. Ouais.
Non, mais ils ont été contrés. Il y a quand même 2 buts contrés. Mmh. Je suis désolé de te dire, c'est pas des buts que. Non,
mais ça reste un super match.
Bah moi, je suis pas autant que toi.
Ah bah alors attendez, qui veut me parler de ce super match? Puis après, on ira.
Moi, je sais pas.
Je saute au plafond parce qu'il y a 2-1 au bout d'un quart d'heure que je me dis waouh, je suis bien tranquillement installé, que je vais avoir une soirée de folie, qu'il y a déjà une erreur de gardien sur le but de Balón Silva, qu'il y a déjà un jaune. Au bout d'une minute pour Tchouaméni avec un arbitre français, des choses que je vois jamais avec le Real Madrid. Donc je vois des choses quand même très étonnantes et je vois la capacité, excuse-moi, c'est un mot galvaudé, mais de résilience du Real qui est 2 fois mené dans ce match et qui à chaque fois revient et même dépasse une fois parce qu'ils ont mené 2-1 et ils ont réussi à faire 3-3. Donc ça reste un match super. Après qu'il y ait des trous, qu'il y ait des erreurs, que ce soit pas le City qu'on connaît.
Ce qui trompe un petit peu. C'est qu'on n'est pas resté dans un rythme très élevé.
Non.
Il y a eu effectivement 12 premières minutes étonnantes.
Folie, ouais.
Avec 3 buts, effectivement, et puis beaucoup d'espace. Après, bon, enfin,
on était un peu sonné quand même au bout d'un quart d'heure.
Pardon ?
On était un peu sonné au bout d'un quart d'heure.
Oui, oui, tout à fait. Et puis après, ça a été ça a été tactique, quoi. Le Real attend, Manchester City les fait tourner, les tourne un petit peu en bourrique sans pour autant les mettre hors de portée. Donc il y a un moment où, alors pour les puristes ou les grands spécialistes tactiques, tout ça et tout, ils vont y trouver une forme de bonheur. Mais je veux dire, au niveau de l'intensité, tu restes en éveil parce qu'avec Rodrigo qui était pas mal en première mi-temps, Vinicius qui avait des espaces. Mais et puis après, le but de Foden rend la dernière demi-heure folle. Et c'est vrai que le Real Madrid, c'est l'ADN de ce club, quoi. Ils sont insubmersibles, quoi. Tu as l'impression qu'il y a un premier iceberg, bon, il passe machin. C'est eux qu'il fallait envoyer à la place du Titanic. Et chaque fois, bah, ils s'en sortent. Mais voilà. Mais il y a des temps comme ça. Bon, et puis après, hop.
Oui, mais dans France-Argentine aussi, il y a des temps comme ça. Mais dans France-Argentine aussi, il y a des temps.
France-Argentine, pendant 70 minutes.
Pendant 70 minutes, c'est. Andorre, c'est un.
Dominique.
Là, il y a match quand même.
Dominique, France-Argentine, on va le mettre de côté.
Oui, parce que
je sais.
Tu vas pas nous le ressortir.
Non, parce que je sais quand ça commence, mais je sais pas quand ça finit. Donc ce soir, même petit, on a un match à débriefer.
Donc c'est ça qui est un peu trompeur.
Non, attendez, Joan Micou.
C'est ça qui est un peu trompeur.
Non, non, moi, je voulais juste parler du match. Là, on est arrivé, j'ai mon sparadrap match de légende, je l'enlève. Hop, là, je l'ai mis dans ma poche. Ce soir, il y a eu des chaos, il y a eu plusieurs chaos.
Moi, c'était un grand match, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros trou au milieu du match et c'était un peu plus tactique qu'un match spectaculaire. Mais c'est vrai qu'il y a le début du match et un peu la fin du match qui rend ce match intéressant. Après, je sais pas, j'ai vu beaucoup de joueurs aussi pas à leur niveau, donc c'est ça qui pour moi fait pas dire que c'était un match de légende, absent pendant beaucoup de temps dans ce match. Mais après, j'ai assisté à un super match, hein, après avec des buts magnifiques, notamment du côté de City, un peu plus de réussite du côté du Real. Mais voilà, tout a été dit, c'est-à-dire que le Real est sonné, mais ils arrivent à repartir parce que quand le
City, aussi,
quand City repart devant, quand ils égalisent, ils reprennent l'avantage à 3-2. Moi personnellement, je me suis dit ça y est, ils ont fatigué le Real et ou ça va rester comme ça ou voir ils vont en mettre un de plus. Et le Real réussit à chaque fois à repartir de l'avant et en croire en sa chance, alors qu'ils sont pas très très bien à ce moment-là et ils repartent. Donc pour ça, c'est un grand match. Mmh. Mais un match de légende. Moi, je trouve qu'il y a des. Par exemple, tu vois, Rodri ce soir, il m'a surpris, quoi. Il rate des trucs que d'habitude tu le vois pas faire. Mmh. Donc ça fait partie des joueurs. Je trouve que Foden, ça a mis du temps à ce qu'on le voit. Ah bah oui. Bellingham, on le voit pas trop, alors que c'est des joueurs.
Vinicius sauf son match sur Vinicius le centre sur pour Valverde, mais sinon il a tout raté.
Ça tient ses promesses. Il y a un Real Manchester ce soir, tu t'attends à du spectacle et ça tient ses promesses quand même, globalement.
Oui, mais ce que je veux dire, je m'attendais à mieux de certains joueurs,
bien sûr,
cité notamment, et il y en a pas mal. Mais sinon, ça.
Tu vois, écoute, si t'as pas vu le match,
ça reste un grand match. Non, j'ai dit que ça restait un grand match.
Si t'as pas vu le match, tu vois 3-3, tu dis j'ai raté un truc quand même.
Ouais, parce que t'es un joueur. Bah oui, t'es un homme de stats.
Oui, on peut quand chiffres. Même, ouais. Ouais. Le mec a pas vu le match.
Ouais, il se dit j'ai raté un truc. Il regarde le score, il dit 3-3.
Et s'il revoit le match, il dit j'ai raté, mais.
Oui, mais quand même.
Ah ouais. Mais quand même.
Non, vous avez pu rater Nantes-Lyon dimanche. Vous voyez, Nantes-Lyon dimanche, vous avez pu rater.
Évidemment.
Bah oui, mais bon.
Forcément. Non, mais Real Manchester City, c'est la finale avant la lettre, en quelque sorte. Donc forcément, tu t'attends à Mons et Merveilles. Idéal. Le club qui est à l'extérieur ouvre la marque d'une manière incroyable à la première minute. Tu te dis, il va y avoir le feu. Et il y a un peu le feu. Et puis après, bah, ça redescend. Tu as des matchs infernaux mais qui te tiennent en haleine, mais plus ou moins continuellement. Là, tu te disais, bon, bah, on attend. Est-ce que le Real va céder?
J'aimerais écouter quand même Ludovic Obraniak. Mon Ludo.
Non, je le trouve un poil sévère. Moi, je trouve qu'on est, à ça du match, on pourrait la ressortir un peu l'étiquette parce que
légende.
On a quasiment tout ce qui se fait de mieux.
C'est bien,
aujourd'hui.
Vous sortez du bois à la fin.
Bah oui, mais c'est toujours le meilleur pour la fin.
Ah, d'accord. Ouais, okay,
c'est pour marquer l'audimat.
D'accord. Attendez,
je laisse partir Dominique. Il raconte n'importe quoi sur ses France Argentine et compagnie. Ouais. Et puis moi, je termine derrière.
On
est passé à ça parce que il y a tous les ingrédients d'un match. Il y a ce but surprise à la première minute. Il y a les rapports de force qui s'inversent continuellement. Il y a des courses et des choses.
Continuellement. À un moment, le rapport de force, il y a une équipe qui a le ballon et qui veut essayer d'égaliser.
Il y a une équipe qui mène, l'autre qui revient, l'autre qui repart, l'autre qui revient. Il a été continué.
Un peu après un temps, pas beaucoup.
Ça a changé quasiment.
Pas beaucoup.
Ça a été un rapport de force en ping-pong, quasiment, sur ce match-là.
Non, mais ça, le ping-pong, il a duré.
Une équipe qui a des espaces, alors forcément, quand elle a le ballon, elle est un peu dangereuse. Une équipe qui cherche la faille, mais qui manifestement sans de Bruyne.
Faut quand même oublier.
Attendez, Dominique. Laissez,
Ludovic. Il y a un axe Ludovic, là, Didier.
Non, mais il faut quand même pas.
Sur le truc de légende, donc
Non, mais il faut quand même pas oublier que City est privé de ses latéraux. Donc il joue à 4 défenseurs centraux. Il n'y a pas De Bruyne. Donc ça veut dire que la qualité de ce match-là. Le Real n'a quasi pas de banc sur la partie offensive. C'est-à-dire que les mecs, ce qu'ils ont donné en termes d'intensité, de dépassement de soi, moi, je veux dire, dans un match comme ça, je ne sais pas. Est-ce que le football a changé ? J'en sais rien. Mais je regardais tout à l'heure et je me disais, est-ce que j'aurais pu, moi, ne serait-ce que toucher du doigt ce que j'ai vu là, en termes de course, je vois Bellingham, il était cuit à la 60e, et il continue, et il s'arrache, et il y va, et il est dans le dépassement. Moi, franchement, ce match-là, il m'a fait vraiment vibrer. Mmh. En plus, parce que, on a tous cru que City allait écraser le Real. Il y a ce geste exceptionnel. Mais imaginez la lucidité de mettre ce centre.
City allait écraser le Real.
Moi, à 3-2, je pense que le City va.
Ah, oui.
À 3-2, je pense qu'ils vont payer la prendre le lead et va en mettre un quatrième. Mmh. La lucidité de Vinicius de donner ce ballon tendu, Valverde qui arrive, bam, il la reprend avec un geste quasi parfait.
Le centre, il n'est pas tendu.
Ah, les gars, à moins qu'on soit gonflé.
C'est un beau centre, mais il n'est pas tendu. Après, bon, si tu me dis qu'il est tendu.
Au super football en Ligue 1 que l'on voit tous les jours.
Chaque fois, tu fais la référence avec la Ligue 1. Moi, je te dis, c'est les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle.
Quel match tu vois qui se rapproche de ça?
Forcément, c'est
les deux meilleures équipes. Même le City Arsenal, il n'était pas à la hauteur ces derniers temps. Quel match on a vu de ce niveau-là?
On n'est pas en train de dire que c'est un mauvais match. On dit que c'est un très. Moi, je dis que c'est un très bon match. Mais après, vous parlez de match de légende. Voilà. C'est-à-dire que je pense
Non, personne n'a dit ça.
Non, mais on répond pas.
Non, il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas, de question.
C'est le contexte. Non, mais c'est que c'est un quart de finale.
Non, mais tout le monde dit autour.
Tu mets ce match-là en demi.
Non, mais vous êtes en train de dire comme si on disait que c'était un match moyen.
Non.
Je trouve que c'est un très très bon match.
Vous le classez.
Je suis sûr que dans 2 ans, on va en reparler de ce match. Personne ne s'en rappellera. Ou s'en rappellera s'ils ont fait 3-3. Oui, il y avait eu des beaux buts.
Mais vous savez quoi?
Le match de légende, c'est par exemple un France-Brésil 86. Ça, c'est des matchs de légende. Mais il n'y en a pas 50 par.
Vous savez quoi? On le classera.
Là, tu tapes haut aussi.
Non, mais c'est les
Ils peuvent pas comprendre.
Non, mais le match de
on le classera. On le classera.
C'est des matchs de légende.
On classera ce match.
Voilà ça.
On classera ce match.
Le problème des gens qui sont pas nés.
On classera. Bah, j'étais né en 86.
Oui, mais.
Bah, si.
Tu avais quel âge en 86?
Bah, j'avais 16 ans, donc j'étais en état de comprendre. On classera ce match. Oui, bah d'accord. On classera ce match. On va dire avec toutes les confrontations entre Real City.
France Allemagne 92 à 12 ans.
Ah non, mais moi je trouve que c'est
non, mais Real City, à chaque fois, on se dit. Non, mais merde, il y a des trucs qui vont sortir qui sortent de l'ordinaire. Oui.
Quand même, c'est pas un match éliminatoire. Les matchs de légende, en règle générale, c'est élimination directe. C'est un retour. Vous êtes aveuglés comme des lapins qui sont pris dans les phares. Vous faites 3-3, vous dites c'est un match de légende. Alors moi, je t'explique. 12e minute, 14e.
Personne n'a dit que c'était un match de légende.
Attendez, laissez-le parler.
J'aime bien les stats et je dis pas ce qui m'arrange. 12e, 14e minute, 2-1. Ils reviennent de nulle part.
Ouais.
2 buts, autogol. Pratiquement, d'accord? Et t'attends la 66e pour faire 2-2. Donc ça veut dire pendant 45 minutes, tu as du jeu et tu n'as pas de but. Mmh. Il y a eu ce premier quart d'heure qui nous a donné, en termes de but, et même de surprise, de voir un 0, 2-1, 2-2. Après, l'heure de jeu, vous en foutez, 540 passes City, 280 Real. Oui. Ils ne voyaient pas le ballon. Ouais. Donc la possession, le tempo, c'était moins... J'étais avec des gens qui étaient un peu pro-Real. On pouvait... Non, vous n'êtes pas seul. Non, d'autres gens, des amis. Et donc, on attendait. Moi, il me semblait plutôt que ça allait faire... Il fallait que ça fasse 2-2. Mais ça pouvait faire aussi 3-1. Parce que, sincèrement, Vinicius, ils ont vendangé un max. Même Rodrigo, 2-3 fois, quand ils ont eu des possibilités de frappe, c'est parti n'importe où, etc. Mais... Il fallait que ça fasse 2-2.
Il s'est passé les choses.
Il fallait quand même que ça fasse 2-2 s'il y avait une logique sportive. Ils étaient bouffés, le Real. Et il y a eu ce 2-2. Et il y a eu ce 3-2. Et là, on s'est dit, et là, bravo au Real. Ils repartent avec le petit Marcel, les chaussettes en bas, et ils font 3-3.
Tu dis comme nous, en fait. C'est un match renversant.
Mais moi, je te dis, ces équipes-là, je les ai trouvées quand même un peu fatiguées. Ils ont beaucoup donné, mais leur niveau de jeu, tu joues ça, c'est pas champion d'Europe.
Ok.
Je te dis non.
Bah, face à qui ils sont pas champions d'Europe, Eric?
Non, il faudra qu'ils trouvent de l'énergie. Ils ont le jeu pour l'être. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un match où il y a eu beaucoup de frappes, des passes ratées.
Il y a eu 15-20 minutes de trou d'air.
Non, plus.
Mais sur un match, on ne peut plus estimer que sur un match de 90 minutes, c'est le feu tout le temps, c'est la folie, il n'y a que des actions. On ne peut pas lire un match avec la fenêtre de se dire pendant une heure et demie, il faut qu'il se passe quelque chose.
Moi, je vais te dire, les deux entraîneurs vont sûrement dire, et Guardiola et Ancelotti, c'est sûr, demain, la une des journaux, c'est et ça te donnera raison. Moi, je regarde.
Ben, t'as pas pris de plaisir ?
Non.
T'as pas
pris de plaisir, ce soir ? J'ai pris du plaisir, j'ai vu des choses, mais j'ai vu beaucoup de défaillances. J'ai vu des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. J'ai pas vu un très grand Real Madrid, je suis désolé de te dire. Ben, mes amis, et il y a des gestes techniques, des frappes ratées, des contrôles. Par contre, ça allait à un moment donné.
Est-ce que c'est pas ce qui est beau dans le, dans le fait que, dans le fait que ces deux équipes-là sont pas 100% encore parce qu'il manque des joueurs, parce que qu'il y en a une, ils ont réussi à nous offrir un tel spectacle en ayant de la défaillance dans l'enjeu.
Non, il est spectaculaire. Bah, c'est ça que je trouve beau. Il y a du suspense, il tient en haleine. T'es content, t'en as pour ton argent.
Merci les copains. Mais on va revenir parce que j'ai une question à vous poser sur cette rencontre. Real 3, City 3. Donc, match nul, en attendant donc la deuxième manche la semaine prochaine. Pour vous, quelle équipe vous a fait ce soir la meilleure impression ? Est-ce que c'est le Real ou est-ce que c'est City ? Habillage, bon match de légende. Jean-Micou, est-ce que c'est Real ou est-ce que c'est City ? Ah oui, c'est...
Bon, c'est difficile de répondre. Je n'ai pas une qui m'a fait une meilleure impression que l'autre.
Match nul sur tous les plans. Ok. Eric.
Ben, moi, on va me traiter de pro-Barça, mais j'ai préféré le contrôle et le tempo de City. Mais je suis pas monté au rideau.
De toute façon, il y a trois partout, donc il n'y a pas la ligne droite des Champs-Élysées. Ludovic Aubagnac, City ou le Real ?
Plutôt Real.
Plutôt Real, ok. Dominique Sévrac.
Bonsoir. Bonsoir. S'il faut choisir, parce que je pense que je peux dire n'importe quoi, ça sera valable.
Ouais.
Et moi, je vais dire le Real Madrid quand même.
Ok, le Real. On se fait un petit truc ou pas, Didier ?
Allez.
On se fait un petit truc ?
C'est quoi ? Deux contre deux, là ?
Non, un contre un, on va faire un petit duel gentil. Il y a Ricky, okay. City, et soit Ludovic, soit... Mais envoyez le jingle.
Vas-y, choisis.
Non, c'est le jingle d'abord. Alors, c'est le jingle, le nez bouché, vous savez ? Voilà. C'est le nez bouché. Eric, c'est plutôt City. Même s'ils vous ont un peu déçu, mais voilà. Vous voulez insister sur le match de City ? Vous l'affrontez qui ? Doumé ou Ludo ? Vous avez une préférence ?
Un facile ou un très facile ?
Non, je vais prendre Ludo.
Le Ludo, qui est gourmand.
Je le croise rarement.
Ok.
Que là, je suis avec la Dream
Bon chance à toi.
Pas besoin.
Bon, Ricky, donc, vous affrontez Ludovic Aubagnac. Jacouille, est-ce qu'on est prêt en régie ?
Ligue des champions.
Ok. Ludo, vous commencez parce que vous recevez ce soir. C'est le Real qui recevait. Pourquoi le Real vous a fait un peu la meilleure impression ? C'est vraiment des trois petites choses.
Parce qu'ils sont encore une fois dans une situation renversante, ils sont assez bouleversants, et Dominique en parlait, la résilience de ce club-là, mais au-delà de ça, on sent qu'ils ont un niveau un peu inférieur à cette équipe de City, malgré tout, l'énergie, l'intensité, le cœur qu'ils donnent à cette partie fait qu'ils arrivent à équilibrer les débats et faire 3-3. City, j'étais un tout petit peu déçu dans le jeu par rapport à Hollande, par rapport à d'autres joueurs que j'ai trouvé un petit peu en dedans. Certes, on a vu et on le dira tous que Kevin De Bruyne a beaucoup manqué à cette équipe. Donc je trouve que c'est le Real qui m'a fait la meilleure impression.
Ok. Pour vous, il y a un avantage City.
Le Real joue à la maison et ils ont joué en contre à Tantis. Quand ils faisaient un pressing, c'était un faux pressing. Ils n'étaient pas coordonnés. Ils ont joué bas, ils jouaient en contre comme d'habitude. Ils ont vendangé, ils ont mis quand même deux buts. Les deux autogols, je suis désolé, s'ils ne sont pas touchés, il n'y a pas but. Au moins, City a mis trois buts. Ils ont... eux, le tempo, la maîtrise du match. On parle de résilience à 2-1 de Madrid qui revient, mais il faut revenir à 2-1. Quand tu mènes 1-0 et t'es à 2-1, c'est aussi la résilience de City qui a contrôlé le match, qui est allé au bout de ses idées, qui fait 3-2 et qui pousse. Après, 3-3, c'est mérité, le match est nul.
Ok, mes amis, quelle équipe vous a fait ce soir la meilleure impression ? Vous pouvez évidemment participer à nos débats. Dans quelques minutes, il y aura les notes de l'équipe du soir également. Vous allez sur le site L'Équipe, donnez vos impressions, votez soit pour Eric, soit pour Ludovic Aubagnac. Bref, on passe la soirée ensemble sur le site L'Équipe et sur la chaîne L'Équipe. Président.
Moi, je suis embêté parce que elles étaient chacun dans leur style, donc je suis un peu comme Jo, quoi. Tu vois, elles ont des atouts toutes les deux. Je dirais que le Real, partant du principe que Bellingham n'a pas été trop dans décisif dans son assiette et que Vinicius Junior, normalement, est beaucoup plus efficace, je trouve que Manchester City a des grosses carences défensives, si tu veux. Le deuxième but qu'ils prennent, c'est pas possible qu'il soit placé comme ça, Kanji, que ça parte dans son dos et qu'il n'y ait pas un semblant de couverture, qu'il n'y ait pas quelqu'un un peu proche. Alors, Rodrigo, après, il perd du temps, mais il peut, tu vois, c'est Vinicius, il va jusqu'au bout. Et donc, je dirais que, bizarrement, même si City est plus attractif, puisqu'ils essaient quand même de produire du jeu, je pense que le Real a peut-être plus d'atouts.
Ouais.
Mais te dire qu'une équipe m'a fait meilleure impression que le public suivra. C'est le public qui décidera.
Vous, non, pour vous, c'est.
Il manque du monde aussi ce soir.
Oui, après.
Alors, je ne sais pas s'ils seront là autour de Bruyne.
De Bruyne, il a vomi, mauvais estomac, on l'a vu, donc il était présent, mais il n'a pas joué. Voilà.
Bon, ça. T'as Walker aussi. Parce que Walker, il est titulaire, je suis désolé.
Oui, Walker, quand tu laisses autant de profondeur, si tu veux, parce que tu as deux diables devant quand même au Real. En plus. Ils jouent super bien, ils sont vachement complémentaires. Et ça, c'est Mbappé, s'il a vu ce match, je pense qu'il aime le foot, il l'a vu. Il doit être content quand même, parce qu'on disait, Mbappé aime plutôt être à gauche, si tu veux, mais il y a toujours Vinicius à gauche. Mais finalement, Vinicius, il est en train de le préparer. Je ne sais pas s'il le prépare, mais dans cette configuration-là, il est très souvent peu à gauche, quoi. Il y va, mais peu. Il était peut-être un peu plus en deuxième mi-temps. Donc, ils pourront alterner les deux. Oui. Tu vois, c'est plutôt...
Enfin, il y a une chose, c'est normal, ils jouent en 4-3-2-1-2. C'est Bellingham derrière deux mecs.
Oui.
Il y a
pas réellement... mais ça te permettra, si tu veux, de garder Bellingham, parce qu'on se disait, oui, s'il garde Rodrigo, il garde machin, il garde Néné, c'est Bellingham qui va en subir les frais. Enfin, je dis, en tout cas, ils ont cette optique-là.
Didier, si Vinicius reste, Vinicius, c'est pas sûr de rester.
Ah bon? Ah, je savais pas.
C'est le foot.
Ah, c'est le foot. Ah. Bah, vous avez des infos?
Alors moi, je te dis.
Regardez le petit sourire. Regardez le petit sourire qu'on a eu là.
En avril, vous faites comme si tout était figé.
Non, mais c'est rien n'est figé. Mais pour l'instant, Vinicius,
c'est une grande star du Real.
Jo, je voulais prendre un petit rendez-vous avec vous sur le match du Real. Le match commence de manière catastrophique parce qu'au bout de 40 secondes, il y a Tchouaméni qui met une semelle sur Grealish. Donc au bout de 40 secondes déjà, Tchouaméni prend un jaune et sait qu'il manquera le match retour. Sur le coup franc, but avec une cagade de Lounine ou un geste délicieux de Bernardo Silva. Ça, je pourrais vous reposer la question.
Mais j'étais en train de noter. Tu mets un joueur devant le ballon, faire ton mur.
J'étais en train de noter, 12e minute, quel parcours du combattant pour s'approcher de la surface de City. Je lève la tête, un partout, je relève la tête, 2-1. Et là, on est arrivé dans une dimension qui était assez drôle, puisque le Real laissait le ballon, et vous l'avez évidemment noté, mais j'avais l'impression qu'il leur laissait le ballon, qu'il crée une souricière pour mieux les contrer. Et là, j'ai dit, mais City va jamais s'en sortir. Ils arrivent vraiment à 2-1 la pause. Je me dis, mais merde, ils ont perdu leur foot.
Même un partout. Hein.
Ouais, après,
déjà, le deuxième, c'est un contre.
Bah, oui,
donc,
oui,
ils
oui.
sont déjà en place après l'égalisation. Devant leur 18, ils sont tous derrière le ballon.
Ouais.
Donc pour City, c'est compliqué parce que trouver des espaces, trouver de la vitesse dans le jeu, c'est compliqué. Et ensuite, eux, ils savent très bien le faire. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ça part très très vite. Et après, ça joue. C'est juste techniquement pour aller au bout de l'action. Parce qu'à chaque fois qu'ils récupéraient, il y avait un semblant de danger pour
oui, mais City. Mais donc, ce qui leur permet aussi.
Non, mais après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, on pensait que le City allait vraiment s'effondrer, quoi.
Bah, oui, voilà. Moi j'ai dit, ils vont caler. Ils vont caler.
Après, comme ça. C'est dans ces moments-là aussi que ce que disait Guardiola, quand tu as des moments faibles, il faut essayer de résister pour pouvoir. Est-ce que fait très bien le Real, on le sait.
Mais très bien,
City, finalement, ils arrivent aussi à bien le faire ce soir, notamment.
Mmh. Ce qui permet au Real de jouer comme ça, c'est aussi parce que, pour répondre à la question, j'étais d'accord avec Ludo. Parce que vous avez un joueur comme Rudiger qui fait un match exceptionnel.
Ouais.
Parce que vous parliez des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur, mais là vous avez un défenseur qui a muselé Erling Haaland à lui tout seul, qui est encore une fois passé pour moi à travers d'un grand match, que je n'ai pas vraiment vu ce soir.
Oui, c'est vrai. Il a raté son
match. Et que Rudiger a été impressionnant. Et quand vous avez une telle sérénité, une telle solidité qui vient de l'arrière, avec un gardien ce soir qui commence mon match de fébrile, ça vous donne une énergie.
Mais vous savez,
ça vous remet dans les. Parce que cette force de ce calme que le Real a toujours pour revenir dans la situation, il vient d'où? À part de son histoire, de son ADN, de tout ça.
Une fois
qu'on a dit ça, c'est un peu des mots valises.
Ouais.
C'est quand même qu'il y a des joueurs qui vous donnent une Camavinga, Rudiger ce soir, et vous rééquilibrent une équipe, quoi.
Mais l'idée de la souricière, là, l'idée. Oui. Ok. Parce que généralement, les équipes contre City, elles n'ont pas la possession. En général, elles n'ont pas la possession. Mais là, c'est assumé. Et en plus, on vous crée un truc. Et en plus, on vous compte.
Tu joues avec Rudiger, donc, qui est un garçon qui est plus à l'aise sur ses 18 mètres et défendre en avançant comme il l'a fait sur Hollande deux, trois fois en sortant.
Vous dites Hollande, vous?
Oui, c'est Hollande, oui.
Non, non, on dirait le président. Non, c'est Hollande. Non, non, allez-y, pardon.
Mais
excusez-moi d'être un peu norvégien. Mais...
Polyglotte, oui, d'accord.
Oui, le problème, c'est qu'il parle norvégien.
Pardon, je vous ai coupé. J'ai fait le bar.
Et vous jouez avec Tchouaméni, qui n'est pas non plus un spécialiste. Qui n'est pas fondamentalement un spécialiste du poste non plus, même si je le trouve très bon dans ce rôle-là. Donc l'idée, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller chercher City, ils vont vous sortir les ballons, ils vont vous faire un coup dans le zig, un coup
non,
dans le zag,
dans
et puis vous allez vous faire, déboîter. Non, ils savent, ils connaissent leur force. Leur force, c'est quoi? C'est de bien défendre et puis de lancer avec Kroos. Les deux artistes de devant.
C'est pas que les deux de devant. Hein. Non. Je trouve que Camavinga
a
une capacité à se projeter. Ouais. Valverde, pareil. Wow. Bellingham, pareil. Donc,
oui, mais
c'est vrai que déjà, ils travaillent. Déjà, tout le monde travaille pour l'équipe. Ça, c'est en défendant. C'est-à-dire qu'ils sont tous derrière. Et après, par contre, quand ils récupèrent, il y a tout le monde qui. Ils attaquent pas beaucoup.
Ça, c'est impressionnant.
Ils attaquent à 3, 4.
Qu'est-ce qu'ils font? Il y a quand même une chose que dit. Quand il dit Valverde, Camavinga et Bellingham, c'est Tchouaméni, demain, il revient. C'était à la base Camavinga qui alors qu'il a fait un énorme match, qui repart sur le banc.
Ouais.
À un moment donné, c'est bien de
laisser. C'est votre chouchou, Camavinga, vous.
Bien. Moi, je le trouve bien. Mais Tchouaméni, il est bon aussi. Mais juste pour dire qu'à un moment donné, il y en a un qui rase sur le banc. Ouais. Mais moi, sincèrement, après, c'est le Real Madrid. Je suis pas surpris. Ils ont joué comme ça parfois avec Ronaldo en contre. Benzema, il manque pour moi beaucoup. Et le jeu du Real a changé parce qu'il n'y a plus Benzema qui décrochait, qui venait. Donc aujourd'hui, moi, le Real sera ou pas éliminé, j'en sais rien. Mais moi, je suis déçu, sincèrement. Alors, c'est pas mon club, mais je pense qu'ils ont d'autres atouts. Et maintenant, face à des grands, en tout cas City, ils ont peut-être le complexe d'avoir perdu. Ils jouent très, très bas. Ils ne jouent que par contre.
Il n'y aura pas souvent des grands comme City.
Non, mais j'aimerais bien
Real,
voir.
Le Real est capable de jouer aussi, de conserver, de progresser.
Oui, mais dès qu'ils jouent face à un quart ou une demi et un club où ils ont peur.
Ils ont City.
Ils jouent
ça par rapport à City. Tu veux d'avoir la possession? Tu veux que le Real essaye d'avoir la possession? Tu veux quoi?
Non, mais pas dans les yeux, mais je pense qu'ils peuvent faire mieux.
Ouais. Carlo, en tout cas, c'est pas le choix d'Ancelotti.
Bien sûr que c'est pas le choix. Mais c'est décevant.
Tu as vu City Arsenal ou quoi? Parce qu'Arsenal a la capacité à jouer aussi.
Oui, j'ai vu.
Là, par contre, Arsenal était derrière.
Oui, très bas.
Bloqué.
Et
ça a contrarié City et Arsenal. C'est Arsenal qui a eu les balles de match avec Trossard à la fin.
Non, mais j'ai vu le match, je suis d'accord avec vous. Mais on est d'accord que toutes les équipes qui sont bien, qui coulissent de 2 défenses à 5, c'est très dur de marquer. D'ailleurs, on n'a pas vu de but. Il manquait de fraîcheur, de créativité. Là, la créativité, elle a quand même fonctionné avec Foden. Et Silva, il est mariole quand même sur ce mouvement. Il faut le voir. De tirer au premier poteau, même s'il y a eu une erreur de construction du mur. Et le but Foden, magnifique. Et Guardiola aussi.
C'est Stones qui fait la passe d'ailleurs pour Foden.
Ouais.
Bon. Ah, c'est drôle. Non, mais Stone, défenseur central, il se retrouve en relais devant la surface pour accompagner Bernardo Silva.
Mais
c'est extraordinaire.
Il n'est jamais défenseur central.
Mais la dernière chose qu'il faut remarquer, souvent Guardiola en parlait, c'est que lorsqu'on ne rentre pas. Et là, City est pas très bon d'habitude, sauf Rodri, qui a mis un but de 20 mètres en finale. Mais les frappes de loin, quand tu rentres pas, c'est important. Les Allemands étaient réputés pour ça. Et là, City a trouvé des frappes de 20 mètres. C'est énorme. Ça veut dire que c'est un atout pour City, quand ils ont pas la clé, de rentrer avec le ballon et le but. Dans le but, Ludo. Il frappe.
Ludo. Non, mais si tu. Enfin, on part d'un postulat aussi. Et le Real tombe un peu. Il tombe pile parce que l'absence de De Bruyne, elle change toute la physionomie de ce match. Parce que De Bruyne, celui qu'on a vu là, le dernier contre Crystal Palace, ce soir, dans la construction du jeu, il t'aurait apporté un supplément, forcément. Ce que n'a pas réussi à faire Kovacic et ce que n'a pas réussi à faire Rodri.
C'était Foden qui était censé le faire.
Ouais, mais il était un peu sur son couloir.
C'est pas son registre.
Il était entre deux.
Derrière.
Mais lui, il a plus ce côté finisseur des 30 derniers mètres. Il vient, il trouve les.
Par contre,
De Bruyne, il a le génie de la passe, il a le génie de plein de choses.
Oui.
Là, ce soir, s'il était là, ça peut changer beaucoup de choses.
À la base, c'est Foden et Silva sur les côtés, De Bruyne derrière et Haaland est devant.
Mais comme Grealish est revenu, ça c'était parce que
Didier, Didier, j'avais une question, Didier, pour vous. Quelle équipe vous a fait ce soir la meilleure impression dans votre arbitrage? Vous étiez un peu emmerdé et tout ça parce qu'il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Vous avez quand même conclu, peut-être par le Real. Et là, je vous dis, ce soir, donc le Real a affronté City sans De Bruyne.
Ouais.
Est-ce que le Real a laissé un peu passer sa chance?
Ça, c'est important.
Vous voyez ce que je veux dire
dans
ce que nous a décrit Ludovic.
C'est pas, même si l'histoire des buts extérieurs n'existe plus désormais, c'est pas un bon résultat pour le Real.
Allez.
Alors évidemment, ils peuvent gagner d'ailleurs, mais enfin.
Mais c'est surtout par rapport à l'absence de De Bruyne.
Oui, oui. Alors après, là, l'absence de De Bruyne, on a vu des fois De Bruyne dans des matchs même compliqués, où une équipe qui était basse, c'était le cas d'Arsenal. De Bruyne ne s'en sortait pas. Il a même sorti à 20 minutes de la fin et il hurlait comme un putois avec Guardiola. Enfin, je veux dire, ça dépend de De Bruyne. Là, tu parles du De Bruyne contre Crystal Palace. Tu vois.
Ah, c'était c'est le week-end dernier. Hein,
c'est sûr que pour Haaland, c'est mieux qu'il y ait De Bruyne.
C'est sûr.
Mais le peu d'espace qu'il y avait, comme tu as dit, Rudiger qui est sur lui, Haaland, dans ces matchs comme ça, c'est compliqué.
Il n'empêche quand même que depuis le début de la soirée, on dit qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur. Je trouve qu'ils étaient plus nombreux à City qu'au Real.
Ah oui. Vous avez trouvé des
joueurs pas à la hauteur. Ils étaient pour moi plus à City qu'au Real. Rodri, Haaland, Foden, je suis désolé avant son but. J'ai cherché.
Oui, ça fait trois.
Ça fait trois. Akanji sur le côté droit. C'est, je suis obligé de le juger là où il joue.
Akanji, c'est toujours été un peu une faille. Ouais, d'accord.
Non, quand il joue à son vrai poste, ça va mieux.
Ouais, mais alors, Real, tu as Bellingham, tu as Vinicius.
Bellingham, il fait un mauvais match.
Moi, Vinicius, je trouve pas qu'il fait un mauvais match.
Vinicius, je trouve qu'il fait un bon match.
Ah, bon. Bah, il fait deux passes D.
Heureusement pour City qu'il fait pas un grand.
Il fait deux passes D, ça fait un poison ce soir quand même. Non. Non, vous ne l'avez pas trouvé.
Forcément, c'est un poison parce qu'il a des espaces quand il récupère le ballon. Et comme c'est un bon joueur, forcément, c'est compliqué. Et qu'ils ne sont que trois derrière, finalement, puisque Stones, après, il peut être battu. Ce n'est pas facile. Ils sont presque des fois dans une situation d'un contre un. Mais j'ai trouvé qu'il a raté beaucoup de gestes techniques, beaucoup de passes, des frappes, des choses comme ça. Mmh. Et s'il n'y a pas le centre. Alors, sa note serait par rapport à son niveau aussi.
Hein, Vinicius, c'est deux passes D. Hein. C'est deux passes D, Vinicius.
Ouais, mais il avance.
Match moyen pour lui.
Ouais, bon, après, oui, mais bon. Moi, je le trouve. Hein.
Quand tu vois le nombre de sprints qu'ils font et le nombre d'actions où ils partent de 40-50 mètres, ils sont à deux, et l'aide qu'ils donnent.
On l'a vu ce soir, les gars. Moi, j'ai pas vu Haaland. J'ai vu ce duo-là.
Mais il est dans des circonstances où tu le verras beaucoup plus.
Heureusement, tu le vois, parce que si tu le vois pas sur des contre-attaques avec Rodrigo, Haaland, il a disparu des débats parce qu'il y a d'autres joueurs qui touchent et qui font le jeu. Foden, Silva, je suis désolé, tu les vois nettement plus. Rodri, tu le vois plus dans la construction. Haaland, là, c'est un grand point d'interrogation. Ça fait un mois qu'on se pose la question. Il y a quand même Alvarez sur le banc, qui est rentré à 5 minutes de la fin, l'Argentin, qui est un joueur de petit de complément, qui peut jouer petit périmètre, qui peut marquer, qui est un très grand joueur de foot. Et aujourd'hui, Haaland, dos au but, tout ça, les remises, pas vu, il s'est fait manger, démonter, déboîter.
On va aller voir Eduardo Camavinga, qui a répondu aux questions de Canal+. Qu'est-ce qu'il a raconté à nos copains de Canal?
Il a parlé de son but. Mon tir, bien sûr qu'il est cadré. Après, je ne marque qu'une fois par an, donc j'espère qu'ils ne vont pas me le voler, ce but, quand même. On s'est régalé, c'est le type de match qu'on aime tous jouer. City est une équipe très compliquée, on n'a pas forcément été récompensé, mais on a fait ce que le coach a dit, on a eu beaucoup de courage, on a su faire preuve de personnalité.
But de Bernardo Silva, donc à 1 minute 40, enfin 12e minute de match, sur le coup franc. Alors, vous, dans ce constat-là, vous dites quoi? C'est un geste de génie ou alors c'est une boulette du gardien? Oui, mais plutôt, en priorité.
L'inspiration, elle est géniale quand même, parce que même si je trouve qu'il manque quelqu'un dans le mur, et je trouve que lui...
Il n'y a pas de mur, hein. Vous avez vu un mur, j'ai vu Vinicius. Ouais, j'ai vu Vinicius.
Personne s'y attend.
Lounine est surpris par. Il fait un peu une faute de main quand même. Donc
Lounine, lorsqu'il met pas de mur, parce qu'en général on met quand même un mur dans cette situation-là. Est-ce que Lounine donne une information, donne l'idée à Bernardo Silva, en disant il s'attend pas du tout à ce que je tire.
Je pense qu'il voulait mettre un mur, mais qu'il n'en a pas eu le temps.
Oh. Tu penses?
Moi, non. Tu crois pas qu'il voulait mettre un mur?
Alors là, il s'est dit qu'il allait le jouer en direct.
Lounine, il reste là.
Il s'est dit qu'il allait le jouer en direct. Il allait lancer une balle.
Je te dis, Bernardo Silva, c'est quand même pas la plus grosse. Si c'est Kroos, à la limite, tu te dis,
c'est vrai que c'est pas
je fais attention, Bernardo Silva, de 40 mètres comme ça, ou 35 mètres. Je te dis, c'est pas celui qui va mal.
C'est quand même un éclair de génie, je trouve.
Ah bah oui.
Mais les deux buts, les Didier, on va vérifier en haut. Ils vont revoir et votre thèse en disant, Lounine, est-ce qu'il voulait mettre un mur? Est-ce qu'il a pas eu le temps?
Il me semble que c'est dangereux de pas mettre au moins deux joueurs.
Pour ça que je suis surpris.
35 mètres, tu mets pas deux joueurs.
Je vois Vinicius. Je vois Vinicius qui est là, seul. Il y a peut-être un joueur derrière, mais il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de deux mecs là.
Ça reste un coup de génie parce que c'est sur 100 coups francs, t'en as 99 qui sont tirés dans la surface, quoi. Donc au bout d'un moment, tu rentres dans un rituel où tu t'attends pas du tout à cette frappe-là et le gardien s'y est pas tendu. Après, tu dis que c'est une faute du gardien. Moi, je pense qu'il est pris, quoi. Donc après, quand t'es pris, t'es en retard, c'est fini, quoi. Donc, moi, je trouve pas que c'est une erreur du gardien, quoi.
Les deux buts, quand même, du Real, C'est la chance à.
On a revu Didier.
Quoi, faut être sérieux.
Didier, on a revu l'action. Ouais, jamais, en aucun cas, Lounine veut tenter de mettre un mur. Il est là, il est prêt, tout ça.
C'est une erreur.
Mais oui, c'est une erreur, je trouve. Si... Ça ouvre la porte à l'inspiration de Bernardo, je trouve.
Bon, il n'y a pas De Bruyne en face, tu me diras. Alors, peut-être qu'il se dit, ils connaissent bien les joueurs maintenant, ils savent tous. Comme dit Ludo, tu sais bien que Bernardo Silva, ce n'est pas sur sa frappe. Tu vois, c'est encore Stéphodène qui est près du ballon, parce que lui, il frappe fort, la preuve, bon, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça reste un risque, quoi. Tu
mais Joe, tu dis bon. Que Lounine, il est surpris, mais il se met dans les conditions d'être surpris, en fait.
Un peu, moi,
il fait n'importe quoi depuis le début du coup franc, quoi.
Ouais, comme aurait fait 99% des gardiens,
Oui,
c'est ce qui t'explique.
Oui, d'accord, mais si ton gardien prend un but comme ça, t'es pas très content, quoi. Tu dis pas, tiens, l'inspiration est géniale du joueur d'en face. Non, tu dis, qu'est-ce qu'il fait, mon gardien, quoi.
Mais en fait, tu te dis, mais ouais, bien joué, quoi. Tout le monde se dit, ouais. Et on n'y aurait pas pensé, bien joué. Voilà. Ouais. On le prend. D'ailleurs, ils réagissent vite. Hein,
ah oui, c'est ça. De toute façon, c'est le Real.
Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, parce qu'on n'en parlera sans doute pas, parce qu'on est pris par le match et tout.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé que pour l'arbitrage français.
Le Texier.
Monsieur Le Texier.
Ça en est bien sorti.
Ah oui, très bien. Et on voit, comme Monsieur Turpin, si tu veux, que finalement, ce sont des. Parce qu'en première division, on les lapide, quoi. Je veux dire, on est nul, l'arbitrage français, patati patata, alors que c'est un peu aussi le cas dans d'autres championnats. Mais d'une manière générale, bizarrement, ils sont bons en Ligue des Champions. Enfin, quand le niveau est comme ça. Et c'est un match extrêmement compliqué à arbitrer, je trouve. Parce que tu es à Madrid, parce que tu as des joueurs à forte personnalité. Tu as vu un moment Bellingham, j'ai cru qu'il allait perdre le fil à la 25e minute, parce que Bellingham
j'ai pas
une faute. Ouais. Qu'il n'a pas eu, monsieur Le Texier a laissé jouer. Et après, Bellingham l'a arrosé de paroles, tu vois, comme des joueurs de ce standing peuvent te faire. Bon, ouais. Tu es Le Texier, tu es à Madrid, Bellingham qui arrive, qui est comme ça et tout. Eh ben,
calme.
Il est resté dans.
Impérial.
Ah ouais, ouais.
Autant sur les deux.
À vous écouter, c'est la Ligue 1 qui n'est pas au niveau de nos arbitres.
Non, mais c'est la Ligue 1 qui est très compliquée à arbitrer, surtout si elle n'est pas aidée par la VAR. Mais qui est très complexe.
Et peut-être qu'eux, ils haussent le niveau aussi lorsqu'ils sont dans ce type de match. Hein.
Ils changent de comportement.
Peut-être qu'ils changent un petit peu de niveau, il me semble que.
Moi, j'ai aimé parce que.
Quand ils reviennent en Ligue 1, ils ont un peu le boulard.
Après, monsieur Le Texier fait partie des.
Non, je suis mauvaise.
Plutôt de la tranche.
Non, mais ils ont.
Des positifs.
Le Texier, il est en tête des
notes. Même sur notre championnat.
Mais ils ont quand même des
points.
C'est plutôt celui qui est dans la zone plus.
Des matchs compliqués comme tous les autres.
Ils ont des consignes quand même en Ligue des Champions de laisser l'avantage. Il ne s'est fait pas amuser par les deux équipes qui réclamaient sans arrêt des fautes qui n'existaient pas. Alors, il y a eu des erreurs, bien sûr. Mais ça arrive. Tu le revois au ralenti. Mais il y en a d'autres, il n'y a rien. Et les mecs réclament toujours quelque chose. Au corner, un mec qui n'est pas touché.
Non, mais il s'est imposé, même par rapport aux joueurs. Oui, parce que les joueurs, ils
leur
te testent.
Fait comprendre.
Et ce type de joueurs, ils peuvent te manger le cerveau aussi à un moment. Et ils savent quand ils prennent l'ascendant.
Oui,
ils
ont jamais pu prendre l'ascendant. Il a dit, je vais laisser jouer, donc, je vais laisser libre cours à mon arbitrage.
Des fois, il a
trompé
sur des détails, tout ça et tout. Je trouve qu'il
a été
costaud.
À un moment donné, il y a Rodrigo, il prend un coup.
Ouais.
Tout le monde le publie. Et ça continue, c'est relevé. À un moment
le petit coup de, le non, petit coup de coude.
Non, pas là. C'est à un moment donné, il avait rien et les mecs réclamaient que mettre la balle en touche.
Il y a eu un coup de coude d'un joueur de City. Non, un coup de coude sur Rodrigo d'Akanji.
De contact. Bon, de temps en temps, il y a des fautes, mais quand même, c'est bien de laisser puis de dire aux joueurs, non, moi, je vais pas me faire prendre à votre cinéma. Ouais, quoi.
C'est lui qui a donné le tempo de ça et ça a été un match.
Et puis toi, Tchouaméni, il prend un jaune.
40e seconde.
Oui, mais. Vous êtes des footballeurs. Bon, moi, je suis rugbyman. Moi, il n'y a pas de minute. Le mec fait une faute.
Ouais.
Il met une semelle.
Rouge.
Non, mais jaune. Ah, pourquoi il sort le jaune d'habitude? Il prévient et il met un premier jaune au bout d'un quart d'heure, 20 minutes.
Ouais.
Ou si tu fais une faute, t'as beau avoir 4 secondes de jeu, 10 secondes. Qu'est-ce que c'est ce que je l'entends dans le monde du foot,
Rico, ce
réflexe.
Rico, pourquoi en général, c'est plutôt sur un rouge. Mais là, le fait qu'il mette un jaune, il marque son territoire.
Oui, bon, pas de chance, il peut pas jouer le match retour.
Ah oui, mais ça.
Oui, mais.
Ouais, mais là, il lui met un sacré tampon.
Mais je suis d'accord avec toi.
Il le met un Français, donc on peut dire un arbitre français. Non, mais. Le met un Français. Non, mais tout est bien, quoi. Moi,
tout le monde ne met pas un jaune comme ça.
Le commentateur l'a dit.
À 40 secondes.
Après 40 secondes de jeu.
Tout ça
donc, il faut rendre à César ce qui est César. Des fois, on n'est pas tendre avec eux.
Il se met bien dans le match.
Quand c'est bien, il peut dire aussi.
On n'a pas fait court sur François Le Texier. Regardez, parce qu'on n'en parle pas, mais là, on en a quand même bien parlé avec François. On notera François Le Texier.
texté si vous le voulez bien.
Je trouve qu'il n'a pas une attitude arrogante non plus. Je trouve qu'il n'est pas très souriant, mais il n'a pas une attitude arrogante du tout. Il est ferme, il a une autorité naturelle.
Non, mais il est toujours comme ça, lui.
Il est bien, quoi.
Et après, des fois, en Ligue 1, ça suffit pas. C'est compliqué. C'est pas forcément de sa faute. Ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est inarme.
Dans quelques minutes, donc après, quelle équipe vous a fait la meilleure impression? Ok. On ira le MVP pour vous ce soir. Le MVP du match. Je pense que ça peut. On peut avoir un bon débat. Allez, dans quelques minutes, puis on aura une surprise et on ira voir Giovanni Castaldi qui nous donnera des dernières nouvelles du front entre le Paris et Barça. Allez, à tout de suite.
Ouais.
Mes amis, on ne refuse rien décidément. Eric Blanc, quelle équipe vous a fait ce soir la meilleure impression? Eric me demandait à la pause, mais on n'a pas eu le résultat du duel. Ben regardez, c'est Rico qui s'impose 57% par rapport, voilà, vous jouez à l'extérieur, c'est une victoire à l'extérieur, Rico. Voilà. Ben oui, vous êtes en ballotage favorable. Ben évidemment, vous le connaissez sur le Woodet. Eric, on a besoin également de vos connaissances parce que là, il y a une équation à résoudre. Généralement, le MVP est un peu une chambre d'enregistrement, mais là, trouver le joueur à distinguer ce soir. Quel est pour vous le MVP de cette rencontre? Habillage, simply the best. Merci beaucoup. Alors, monsieur Jo, vous êtes défilé sur la première question. Avez-vous peut-être un joueur à mettre à l'honneur ce soir?
Plusieurs Camavinga.
Camavinga, le petit français épatant milieu de terrain. Eric Blanc.
Non, je vais dire Foden.
Phil Foden. Ludovic Aubagnac.
Rodrigo.
Rodrigo. Il n'a pas pris le plus grand. Ah, le prix est disputé à Dominique Sévrac.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Camavinga.
Camavinga. Ah, Camavinga. Didier, il n'y aura pas forcément de duel parce que là, voilà, ça ne s'y prête pas. Vous, est-ce que vous avez quelqu'un?
Le petit français aussi.
Le petit français, le petit Eduardo?
Ouais.
Camavinga.
Non, l'arbitre.
Ah, Camavinga.
Ah, Camavinga, ok.
Le texier.
Non, monsieur le texier, on va le noter dans quelques minutes, si vous voulez. Camavinga, Camavinga est le MVP.
C'est cool, avec les arbitres.
Pour Dominique et pour Didier. Généralement, ouais, vous êtes. Et pour Jo, mais en général, il y a un axe, une sympathie, quelque chose de canois entre vous deux, une chimie. Mais là, entre Dominique et nos deux canois, là, ce soir, c'est.
Parce que moi, je n'ai pas attaqué le président d'entrée sur ses habits, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, sur ses habits. Référence à Ludovic Aubagnac qui vous a taquiné sur votre veste et votre cravate.
Non, je l'ai trouvé très bon. Très utile avec le ballon, qui avance tout le temps, qui se projette tout le temps, qui remet son équipe, alors certes avec de la chance, mais à égalité sur le premier but, qui joue à son vrai poste et un poste où on ne voit pas souvent malheureusement parce que quand il dépanne, c'est arrière-gauche ou c'est parce que Tchouaméni n'est pas là. Donc moi, c'est un joueur que j'ai toujours adoré et je trouve qu'il prend l'envergure du Real à chaque fois qu'il a sa chance.
Camavinga.
C'est facile d'être joueur du Real.
Souvent, c'était un joueur qui faisait la différence quand il entrait. Ouais. Et là, du début à la fin, et comme Kroos, je ne l'ai pas trouvé au mieux. Ce n'est pas le Kroos de France-Allemagne, c'est un match différent. Ouais, je trouve qu'il a été important.
Il est juste.
Jo,
non, mais il a cette capacité, quand il prend le ballon, il va vers l'avant.
Ah ouais.
Il prend 3-4 mètres au joueur à chaque fois avec le ballon. Et quand il se projette, on sent le joueur déterminé, quoi. Il n'hésite pas et puis ça fait très très mal à l'adversaire de suite. Et puis, comme a dit Dominique, il harcèle, il presse, il récupère pas mal de ballons. Et moi, je trouve que cette qualité-là, quand il est devant la défense, il la perd forcément. Mais quand il est un peu plus libre, alors là, ça fait très mal, très vite à l'adversaire.
Eric Blanc disait à propos de Camavinga, un joueur tonique, des mollets de boxeur. Qu'est-ce que il y avait des
Doberman.
Doberman.
Non, mais moi je l'ai trouvé.
Il y avait quelque chose.
Sincèrement,
vous l'aimez ce joueur-là.
Je l'ai trouvé très bon et je l'apprécie. C'est le meilleur sûrement joueur de Madrid. Après moi, je dis Foden parce que. Dans son deuxième but, il les relance totalement, il est somptueux. Et puis je l'ai vu, il a demandé le ballon, c'est lui qui a animé, qui a pris le rôle un peu de Bruyne qui était pas là. Enfin, moi je l'ai vu dézonné, il a joué sur son côté, il a joué dans l'axe, il a pas eu peur.
Vous l'avez vu enluminer le jeu?
Dans sa partie, dans son couloir où il était, il réclame les ballons, il fait des enchaînements, il est dangereux chaque fois qu'il rentre, comme Silva l'a été à un moment donné aussi dans la première mi-temps, et puis il marque ce deuxième but, cette frappe en pleine lunette. Alors c'est vrai qu'Amavinga, il a quand même beaucoup de réussite sur son but, mais il en a mis un, mais il est contré. Et puis je donne la prime rebelote à ces joueurs, ces attaquants, parce que c'est quand même plus compliqué de débloquer des matchs, derrière une défense qui attendait, qui verrouillait, c'est vous qui l'avez dit, qui bloquait. Voilà, Kamavinga, lui, il est dans son registre, il compte, il ratisse, il en faut. Bon, moins spectaculaire, très efficace, un entraîneur le met titulaire obligatoirement, mais je préfère Foden. Voilà, c'est je suis plus porté vers l'attaque.
Eric, je pense que je vais appeler l'UEFA parce que l'UEFA a désigné ce soir. Phil Foden.
Oui, l'instance a tranché.
Ah, c'est ça, l'instance.
L'instance a tranché. Oui, mais enfin, et elle est d'accord avec
Eric Blanc. On l'a critiqué
avec Eric Blanc, tout à fait, c'est Phil Foden, l'homme du match.
Ludovic.
Oui.
Bah, vous, vous sortez évidemment des sentiers battus, c'est normal, c'est votre contrat. C'est ça. Jack Reacher de cette émission, l'homme qu'on n'attendait plus. Vous, c'est Rodrigo. Il m'a bien plu, Rodrigo.
Ouais, il me plaît bien aussi. Et honnêtement, depuis quelques mois, il est en train de passer un cap qui est. C'est plus un cap, c'est une péninsule.
Oui.
Mon cher et ça t'a plu, ça, Didier?
Hein, écoute, c'est venant de toi.
On peut le mettre dans puzzle. Ouais,
très bien.
C'est une phrase dans puzzle.
On peut le mettre dans une forme de puzzle. Ouais.
Non, mais je trouve que ce garçon est en train de toucher quelque chose. Moi, je l'ai pas vu venir. Honnêtement, je savais qu'il avait du ballon, je savais qu'il était un peu virevoltant. Mais la place qu'il est en train de prendre au Real de Madrid, il est dans tous les bons coups. Dès qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe.
C'est le maillon fort aujourd'hui. C'est le maillon fort aujourd'hui. C'est plus Vinicius, c'est lui.
Bah les deux. Je trouve que le tandem fonctionne très bien. Et d'ailleurs, à un moment donné, les commentateurs du match disaient, mais en fait, à deux, ils sont en train de détruire totalement la défense de City. Ils ont même pas besoin des autres. Ils partaient à deux, une deux, allez, hop, je te lance, tu me la remets. Donc, je trouve que ce garçon est en train de et je l'attendais au tournant sur un gros match de ce niveau-là. Et je dois dire que ce soir, il m'a pas déçu.
Ah, c'est un bon joueur.
Il y a une action qui résume un petit peu, alors qui résume une partie du match. On est à la 33e minute. J'ai une action de City. Sauvetage extraordinaire de Tchouaméni sur une action en trio de Rodri, Kovacic, Grilic.
Frappe de Grilic.
Et il y a l'interception.
Mais Grilic, on discutait, il doit mettre l'intérieur du pied et chercher le coin opposé et s'est plié.
Et 18 secondes plus tard.
Oui.
Le duo Rodrigo-Vinicius, voilà. C'est extraordinaire.
Enfin, même si là, ils n'ont pas payé.
Mais Rodrigo a dévissé sa frappe. Mais, je crois que c'est la mauvaise surface, là.
Le but, l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire que déjà, le garçon a l'intelligence de se dire déjà, je vais couper la route du défenseur. Donc, il part dans cette optique de venir couper la route du défenseur.
Après, il a une telle avance que s'il la coupe là, pas là, il la coupe jamais.
Non, mais t'as des mecs qui vont droit.
C'est terrible, la défense de City.
Donc là, il vient, il coupe à l'intérieur.
Je pensais qu'il allait aller jusqu'au bout, moi.
Il voit qu'il est un peu court.
Bah oui, c'est
parce que là, il se resitue et il arrive à remettre ce petit ballon. Alors, avec un peu de chance, hein, bien sûr. Mais il arrive à se resituer. Ça veut dire que ce garçon, mentalement, même dans la lucidité.
Ça veut dire qu'il n'a pas la puissance de Vinicius, mais il a d'autres atouts.
Il a d'autres
Vinicius,
atouts.
Tu ne l'aurais plus revu.
Mmh. Non, Vinicius, tu ne le revois pas.
Donc, on a du Rodrigo, on a du Kamavinga et on a du Foden. Voilà. C'est marrant, hein. Il y a plus de joueurs qui ont brûlé la rétine côté Real que côté City. Il y a notre ami Eric.
Non, mais
c'est dans l'idéologie de la possession.
Mais je parle de la possession, c'est votre partie de la construction.
City sont plus dans un collectif.
Voilà, City, c'est quand même des passes.
Alors peut-être c'est collectif, le Real aussi.
T'as des joueurs qui flambent d'habitude.
Oui, mais ben ils n'étaient pas.
Je peux dire s'ils n'étaient pas terribles. Que Rodri, qui est quand même une plaque tournante dans cette équipe, n'était pas terrible. Ouais. Kovacic a tourné en rond, Haaland on l'a pas vu, donc ça commence.
Ouais, non, c'est vrai. Ouais.
Non mais
t'as joué sans latéraux.
C'est en dessous des autres Kovacic techniquement.
Ouais. Non mais sans latéraux c'est pas des news ça. Hein. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec 4 centraux.
Oui, mais bon, t'as quand même Walker, c'est pas
Walker quand même. Ouais.
Non mais moi je le comprends, mais quand tu joues bas ou en compte comme l'a fait le Real est très dangereux, c'est une forme de football que je respecte.
Non, que vous aimez pas.
Non, je l'aime pas, mais je respecte.
Ils ont pas
vous
fait
êtes
ça non plus.
Non mais vous non. Ça vous plaît, vous dites des sprinteurs, hein, un coup de pompe devant.
Ah, c'est pas que des c'est pas que des tout droits nos copains là.
Mais par rapport au jeu de City proposé quand tu es à l'heure de jeu à 545 passes contre 200 260
ça devient chiant aussi.
Ça c'est accepté, ça c'est intégré par
Ancelotti. Oui, mais attention.
Il le fait pas,
oui, mais
pas. Sur ce match, départ, ne pas
non mais
ballon.
Sur City, eh ben moi je suis très content en fin de compte à la fin qu'ils font 2-2, 3-2 parce que j'ai eu peur qu'ils prennent justement un 3-1 parce que c'était tu le sentais, ils construisaient parce que quand ils font des passes c'est quand même pour essayer d'aller marquer, c'est pas des passes
pas toujours. Non, on s'ennuie parfois mon Eric.
Et le football a parlé monsieur.
3-2. Football a parlé. Quand tu parles du Real, donc chez l'autre, l'impression que tu parles de Mourinho. C'est pas du tout pareil. C'est pas un bus avec les gars qui. Ouais. C'est pas okay. ça.
Le... Non, mais là, ce soir.
Pour faut... Éric Blanc, jouer le contre, c'est un acte cynique. Voilà, c'est comme ça, c'est un parti pris. C'est cynique, c'est cynique.
Comme Enrique et Guardiola.
Dans quelques minutes, on ira faire un tour du côté du site L'Équipe avec les notes de l'équipe du soir, des petites choses comme ça. Puis on a oublié, mais on l'a pas oublié. Arsenal contre le Bayern, score final. Bayern contre Arsenal, score final de partout. A tout de suite pour les images. C'est la deuxième partie de l'équipe du soir. Nous sommes en direct jusqu'à minuit. Et pendant la pause pub, il s'est passé quelque chose, on va dire, d'incroyable. C'est ce qu'on a constaté avec Didier Roustan.
La bombe, la bombe.
Je demande le roulement de tambour, s'il vous plaît.
La bombe.
Didier, par rapport au mercato l'été prochain du Paris Saint-Germain, on a bien appris un truc ce soir, non?
Dominique nous l'a dit à la pause.
Comment? Dans la sauce, c'est pas
Vinicius Junior ira donc au PSG.
Ouais. Ah oui, il dit ça?
Bah, c'est vous oui, avez dit ça pendant la pub.
C'est possible.
Bah, pendant l'émission, tu as déjà dit si Vinicius reste, et pendant la pub, tu dis mais il vient au PSG.
Surtout dit à Joe de rentrer.
Et on est là pour nos téléspectateurs.
Ça fait une heure, je ne sais pas si Joe est là, je lui dis petit, vas-y. T'as fait plusieurs émissions maintenant.
Non, mais cela dit.
Je me souviens plus de votre histoire de.
Mais moi, je l'ai entendu dire ça déjà, de toute manière. Et Pérez, qui est quand même bien avec les Qataris, hein, on sait.
Ah,
on
tu
sait
confirmes
bien
le travail.
Je confirme pas, mais je tombe pas des nues que ton information, Vinicius ira au PSG.
Ah, comme le Real.
Information ou intuition, allez. Dominique Sévrac.
C'est plus qu'une intuition.
On est le 9 avril. On laisse un flux.
À suivre, moi je vous dis à suivre.
Oui,
à suivre.
Le Paris Saint-Germain, là on en parle maintenant, c'est notre envoyé spécial. Il y a un problème de communication et de liaison, mais on va profiter d'avoir Giovanni Castaldi.
Il a trouvé un refuge
Oui.
C'est normal.
On me dit qu'il est dans son hara du 16e arrondissement. La connexion est mauvaise, on va en profiter. Giovanni, demain, le grand match, Paris-Barça. C'est extrêmement difficile d'avoir la compo probable de Luis Enrique. Est-ce que vous avez une tendance, mon cher Giovanni? Bonsoir.
Bonsoir, bébé. Bonsoir à tous. Je suis quand même subjugué de la formation de Dominique. C'est vrai que Vinicius vient au PSG. Alors là, bravo, Dom, bel exclu. Pour ce qui est de la compo du PSG, il n'y a pas de doute dans les cages, ça sera Donnarumma. La principale incertitude, elle se situe en défense, puisque vous le savez, Achraf Hakimi est suspendu. C'est Marquinhos qui tient la corde pour le remplacer sur le côté droit. Luis Enrique est très tenté de refaire le coup de San Sebastián avec sa charnière de deux gauchers, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo et Nuno Mendes, piston gauche, qui lui permettrait de garder sa structure à trois défenseurs avec Marquinhos et les deux Lucas, et que Nuno Mendes prenne le couloir comme d'habitude c'est le cas à l'opposé avec Achraf Hakimi. Mais il y a Danilo, puisque entre les retours, la présence en conférence de presse, même si ça ne veut pas dire qu'il débute parce qu'il nous a déjà fait le coup cette saison Luis Enrique, la présence de Danilo Pereira n'est pas à exclure. Pour ce qui est du milieu de terrain, là il y a peu de doute, Vitinha devant la défense, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery donc qui conserve sa place dans le cœur du jeu. La position d'Ousmane Dembélé sera importante à surveiller. Sur les retours de l'entraînement, ce que Luis Enrique qui travaille, il devrait débuter en position de faux numéro 9, numéro 10, avec beaucoup de liberté sur le côté gauche de l'attaque parisienne pour Kylian Mbappé, sur le côté droit Kang In-li. On pourrait aussi revoir la structure qu'on avait vue à Saint-Sébastien avec le 4-2-2-2, ce petit carré dans le cœur du jeu pour apporter un surnombre à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce qui se dégage des entraînements qu'on a pu voir, mais comme vous le savez, mais il n'y a pas de mise en place avec Luis Enrique. En tout cas, pas sous nos yeux.
Merci beaucoup, mon cher Giovanni. On part sur cette compo, mais on peut avoir les surprises demain. C'est à peu près l'intervention. Hein. C'est bien ça, mon Joe. Hein.
Bah, il peut y avoir une ou deux surprises, mais il y a quand même les grandes lignes. Bah, je suis désolé de ne pas être Dominique Sévrac et de ne pas vous envoyer un joueur de dimension de Vinicius au Paris Saint-Germain. Il y a une info importante quand même, parce que c'était à surveiller côté Barça. Frankie de Jong et Pedri seront bien sur la feuille de match demain. Ils ont fait la séance en intégralité côté barcelonais. Et le Néerlandais était en très, très grande forme. Donc de Jong a de grandes chances de débuter demain, ce qui change quand même la donne. Côté Blaugrana.
Ouais, ce que j'ai lu sur le site du Parisien aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient pas eu le feu vert médical, les deux joueurs, mais finalement qu'ils sont présents et De Jong va jouer. Hein? Voilà, mais pas le feu vert
exactement,
médical.
Exactement, ils étaient en fait. Ils étaient dans le groupe, mais sans la validation des tests médicaux. Et là, ce soir, tous les voyants sont au vert pour les deux joueurs.
Ok, on parle du Paris Saint-Germain dans quelques minutes. Et si la liaison est toujours là, voilà, on vous écoutera prononcer les cheux et les jeux et les jeux, puisque la liaison est mauvaise. C'est la liaison qui est mauvaise. Hein. Notre beau gosse s'est pas mis à chuinter comme ça du jour au lendemain.
Ah bon,
on va aller voir le match de fou entre le Real et City, 3-3, les images, et puis on va noter les joueurs juste après.
Accrochez-vous, ça part très vite, très fort, avec le but de Bernardo Silva dès la deuxième minute. Coup franc parfait pour prendre l'avantage 1-0. Le Real égalise ensuite à la 12e. Camavinga dans l'axe, c'est dévié par Ruben Dias qui trompe Ortega. Deux minutes plus tard, les Madrilènes prennent l'avantage grâce à Rodrigo lancé à gauche par Vinicius. Ça touche le talon d'Akanji, ça file au but 2-1. Égalisation splendide sur un ballon donné par Bernardo à Stones pour Phil Foden qui vise en pleine lucarne. City reprend l'avantage dans la foulée. Grealish en retrait pour Guardiola. Là aussi, c'est beau. Ça fait 3-2. C'était sans compter la frappe extraordinaire, sans contrôle, de Valverde à la 79e sur le centre de Vinicius. 3-3.
Notons à présent les joueurs. Tiens, Aurélien Tchouaméni.
Pas facile de savoir quel est le plus beau but. Hein.
Là, Valverde. Ah, Foden.
Foden, c'est pas mal. Hein.
Ouais, Foden, ouais. Il est beau. Et notons Tchouaméni. La note moyenne de Aurélien Tchouaméni, c'est juste un match moyen, Aurélien Tchouaméni. Oui, bah pour l'instant, c'est la tendance aussi qui se dégage sur le plateau. C'est un 5,5 ou un 6,5, Didier?
C'est un 5,5.
C'est un 5,5. Ok, d'accord. Quelque chose à dire en plus?
Ce qu'il condamne pour moi, c'est son entrée de match, quoi. C'est cette faute qui amène le but.
Bah, il est obligé de la faire, non?
Bah oui, mais c'est ça pénalise.
Donc,
ça le pénalise parce qu'il ne jouera pas le retour, donc ouais. C'est un peu embêtant, quoi.
Ok.
Il souffre de la comparaison avec Rudiger.
Autre joueur à noter, on peut prendre la main, on peut prendre les commandes en régie. Erling Haaland. Erling Haaland qui traverse une bien mauvaise passe actuellement. On a lu quelques statistiques en disant maintenant il marque plus que dans les petits matchs. Voilà, c'est le 2 c'est très mauvais et le 3 c'est mauvais. Jo,
bah, je vois pas comment on peut lui mettre 3 en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il touche pas trop de ballons.
J'ai
mangé par Rudiger.
J'ai une action City Haaland à la 7e minute. Haaland frappe dans un angle très fermé, réflexe de Lounine. Là, c'est la balle de 2-0 à la 7e minute.
C'est quoi la différence entre...
Non, mais c'est parce que...
Très mauvais, mauvais.
Ouais.
Très peu, quoi.
Ouais, oui. C'est très peu. Après, il a le mauvais rôle, puisqu'il y a tellement d'embouteillages qu'ils passent leur temps à se la passer, se la repasser, etc. Il n'y a pas vraiment de centre, il y en a un.
Non.
Ouais, deux ou trois, de toute manière, il peut pas s'en sortir,
il va pas aller
au
PSG.
À un moment donné, il a créé une fausse piste pour un tir de je sais plus qui, mais ça, il a fait très peu.
Vinicius n'y va pas,
il a fait très peu de ce genre de choses. Il dézone jamais, il va jamais chercher le ballon, il reste complètement statique près de la surface.
C'est aussi ce qu'on lui demande.
Ouais. D'accord, mais à un moment donné, le jeu réclame aussi peut-être autre chose, d'autres déplacements, des appels différents, il ne fait rien. Il ne se réinvente pas dans le match.
Oui, d'accord, mais si le coach te dit tu restes dans cette zone-là et je veux que tu pèses sur la défense, peut-être qu'à un moment donné tu vas profiter de la situation.
Quitte à jouer 12 ballons dans le match?
Qu'est-ce que je te dis?
C'est un peu tristounet.
Vous nous dites, vous partez du principe, c'est peut-être que Guardiola lui dit t'as un poste, tu t'y fixes. Nous, on a retrouvé une interview de Guardiola il y a un an, c'était juste avant la rencontre à Leipzig, le match retour où il avait marqué 5 buts. Il était déjà pas très content du rendement, pas du rendement de but, mais de la production et de la participation au jeu. Écoutez ce que disait Guardiola à propos d'Erling Haaland.
Je n'aime pas qu'un joueur reste dans la surface juste pour marquer. Bien sûr que c'est important, mais en dehors de ça, quand on a le ballon en dehors de la surface et qu'il n'est pas en position de marquer, on a besoin qu'il soit actif, impliqué dans le jeu. On doit le chercher et être utile à l'équipe. On peut s'améliorer là-dessus. Il a progressé, mais il peut encore faire mieux.
C'est une archive qui compte.
Son suite de surfeur, là.
Ah, bah, merci. Je vous attendais sur le fond, vous êtes sur la forme.
Ah, mais moi, je suis sur.
Non, mais ça crédite. Et Jo, ça crédite la thèse du 2 plutôt que du 3. C'est-à-dire que t'as pas le ballon, t'as pas machin, mais viens jouer avec nous.
Ouais, mais après,
viens participer.
Le ballon est dans la surface, on a besoin de lui de là-bas. Donc il dit tout et son contraire pour moi.
Il se contredit?
Je sais pas.
Mais alors,
je voudrais qu'il sorte, qu'il vienne jouer, mais après quand on met un ballon dans la surface, je veux qu'il soit là aussi. Donc je sais pas. Il peut faire les deux.
Non, mais là,
après c'est compliqué ce soir parce que le Real est très bas, c'est très serré, donc pour le trouver déjà c'est dur. Comme a dit Didier, j'ai pas vu beaucoup de centres.
Il peut pas fuir un peu Rudiger à certains moments pour
Il a décidé d'aller au combat, quoi.
Bah, il l'a perdu très vite.
Oui, après, il y a tellement de joueurs de City dans l'entrejeu que si lui, il y va encore aussi, alors du coup, tu n'en sors plus. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de...
Est-ce que demande...
Et pas de joueurs, en fait. Il s'entend bien avec De Bruyne, en fait.
Déjà, je trouve. Match ce soir.
Oui.
Où tu veux qu'il, dans quel sens tu veux qu'il aille?
C'est ce que S'il fuit un peu le duel Rudiger, mais il vient. C'est des mouvements de 5 à 10 mètres. Ah oui. On va pas lui demander de dézoner pour être meneur de jeu.
Faire quoi? Il revient dans l'endroit où il y a tout le monde déjà.
Ouais. Non, il peut aller voir Carvajal, par exemple.
Ah, dézoner sur les côtés.
Bah, il peut aller voir Carvajal. Voir ce que fait Rudiger.
Où on voit très bien que quand même le jeu de City, c'est d'essayer d'isoler les mecs sur les côtés pour faire des 1 contre 1. Donc il va aller là-bas bloquer les mecs.
Je te dis pas 20 minutes.
Vous n'avez pas de solution par rapport au match.
Non, sur un match comme ce soir, c'est compliqué pour lui trouver des espaces, des zones où il peut être disponible pour ses coéquipiers. Même les mecs qui sont au milieu, je trouve qu'ils ont eu du mal à pouvoir enchaîner, essayer de faire des... il peut venir en appui pour faire une remise à un troisième. Mais après, c'est aussi compliqué de le trouver. On ne l'a pas trop trouvé.
Et pourquoi il y a la complicité avec De Bruyne? C'est parce que De Bruyne, il a la science de la spontanéité. C'est-à-dire que De Bruyne, il est souvent en une touche de balle. Et un attaquant dans une zone comme ça où il y a plein de monde,
tout de suite,
ça se joue au dixième ou centième de seconde. À chaque fois qu'il fait un appel, il faut qu'il puisse être en capacité. Si le mec qui a le ballon la touche deux fois, bim, l'action elle est morte, il faut en refaire une autre.
Pour vous, il est orphelin de Bruyne, et puis c'est tout.
Orphelin d'un garçon qui peut, à un moment donné, s'il y a un ballon, bim, ça, du panache et de la spontanéité.
Oui, Moriki. Moi, je vais dans le sens de Jo, mais Guardiola, il a passé 87e minute, Alvarez est rentré. S'il avait trouvé si mauvais que ça, il l'aurait sorti avant.
Il fait pas beaucoup de changements, Guardiola. Non, il n'est pas un excité. Il change de position,
il est capable. Moi, je dis simplement que Haaland, là où il m'a surpris, déçu, c'est que sur des ballons un peu en profondeur qu'il a demandé, il s'est fait manger athlétiquement, même de la tête.
Il était vachement négociable, les ballons là, auxquels vous faites référence.
Non, parce que le mec était là.
Oui, mais c'est pas très propre.
Non, mais là où, sur ses deuxièmes ballons, ou ses premiers ballons, la déviation, le truc, essayer de la contrôler dos au but, remettre, il a été un peu mangé athlétiquement, physiquement. Mais après, en restant quand même dans l'axe, en se sacrifiant, ça a permis le jeu sur les côtés quand même. Que City, aujourd'hui, a joué énormément, comme d'habitude, sur les côtés. Donc, je te rejoins.
C'est le sacrifice d'Alonso.
Mais après, ça fait un mois et demi. Moi, je vois Guardiola, ce qu'il avait dit, ça fait plus d'un an et demi. Entre-temps, ils ont gagné des champions avec Haaland. Non, mais c'est à un moment donné, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas compatible avec City, qu'il allait couler. Mais grâce à lui...
C'est des histoires qui reviennent comme ça.
Oui, mais d'ailleurs... Deux internationaux anglais, dont j'ai oublié le nom, ils ont désingué Haaland depuis 15 jours.
C'est Roy Keane.
Je sais pas, c'est une honte, ils ne vont rien, etc.
Non, c'est Roy Keane qui a dit qu'il avait des fois, dans certaines situations, un niveau de joueur de 4e division.
Ils l'ont désingué. Ils ont gagné le championnat, le triplé, la Ligue des Champions.
Bon, la Ligue des Champions, tu ne le vois pas en finale, tu ne le vois pas en demi-finale.
D'accord, mais enfin, il met 30 et 40 buts par saison.
Oui, mais c'est toujours pareil. Tu sais quels sont les matchs qui comptent. Après, les autres. Oui, c'est un bon joueur. Après,
il a succès à Londres. Après, il a son
Il va falloir que dans les grands matchs, peut-être.
T'as Alvarez qui peut être une solution et qui a un style différent.
Mais là, c'est peut-être Guardiola. Faire entrer Alvarez un peu plus tôt, c'était pas
mieux. Mais parfois, Alvarez le fait jouer avec Haaland.
Oui, parfois.
Regarde les matchs.
Oui, je sais.
Le diagnostic, votre ordonnance, monsieur Roustan, regardez un peu plus les matchs.
Non, mais
vous nous ferez une cure de City, Didier. Petite cure de Guerrero.
Je regarde souvent Manchester City, parce que j'aime bien.
Mes petits, il y a eu Bayern-Arsenal, deux partout. Est-ce un bon résultat pour Arsenal? Virginie, résumé du match, 4 buts en 30 secondes, voilà, c'est leur beau camp.
C'est parti, pas de vainqueur là non plus, les Gunners ouvrent le score à la 12e minute, ballon servi par Ben White dans le dos d'Alphonso Davies et récupéré par Saka qui enroule sa frappe du gauche. Le Bayern recolle en contre à la 18e, passe en profondeur de Goretzka pour Gnabry qui tacle sans contrôle.
Hop là.
Faute de Saliba, la 30e ensuite dans la surface, le pénalty est transformé par Harry Kane. Puis Trossard égalise et relance Arsenal à la 76e d'une belle frappe. Ballon servi par Gabriel Jesus.
Ah, c'est
score
beau,
final
ça.
De partout.
Quelle finesse de passe. Est-ce un bon résultat pour Arsenal, habillage à l'anglaise, mes amis? Oui. Non. On y va. Ouh. Westminster Abbey. Ici, Joanne Micou. Bravo. Est-ce un bon résultat pour Arsenal de partout?
Non, ils étaient...
Par rapport à quoi? Au match?
Ouais.
Ou de partout?
Ouais. Bah, par rapport au match, ouais.
Je dirais plutôt oui.
Ouais, plutôt oui. Eric,
Par rapport au match, quand t'es mené deux, je te dis oui, mais ils étaient favoris et ils font match nul à l'aller, ils vont au Bayern. Donc, non, c'est pas un bon résultat pour le match retour.
Ludo,
Non.
Pour match retour. Hein.
J'ai un oui, Johan, deux non, Dominique.
C'est oui.
C'est oui. Ok, un bon résultat. Bah voilà, on va sur un petit super duel, Didier, non?
Super duel. Ouais. Ok. Pour ce truc-là.
Ouais. 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 Bon, bah, un peu du. Hein? L'art pour les cochons, d'accord. Très bien. Ouais. Okay. Ouais. Ouais. Alors je le fais.
Oh bah
ah oui. Un, deux, trois, Chabaz. Ouais.
Je vous remercie.
Ça va être très... Ok.
On assiste à un super duel. Bon.
Voilà. Alors super duel.
Mais.
Ouais, ouais, ouais.
Gâchez pas le produit, on va voir.
Hein. Non, ah, des fois on peut avoir des.
On a vu souvent Roger Hirlefeuille. Monsieur Blanc, Monsieur Blanc, Monsieur Aubragnac, qui commence. Vous démarrez. Dominique, c'est.
Laisse le choix.
Dominique, qu'est-ce qu'on
fait? Oui, bonsoir. Non, bonsoir. En fait, c'est assez simple. On va commencer par le talent de Johan, on finira par un peu d'expertise. Si ça vous dérange pas, même.
Non, c'est bien. Bien. Est-ce un bon résultat pour Arsenal? Plutôt oui, Johan Micou. Vous avez la gonfle. À vous jouer.
Non, mais plutôt oui par rapport au contenu. Moi, je trouve que Arsenal s'en tire bien. Ils étaient déjà menés. Et après, j'ai pas regardé 90 minutes, mais j'ai regardé la plupart du temps City. Mais j'ai vu beaucoup d'actions du côté du Bayern. Même à deux partout, je crois qu'ils tapent le poteau. Donc, ils ont eu quand même beaucoup d'opportunités, Munich, pour l'emporter à Arsenal. Donc, je trouve qu'à la finalité, ce deux partout, c'est pas un si mauvais résultat pour Arsenal.
Eric, comment vous abordez ce match pour répondre non?
Ben, moi, je réponds parce que je pense que c'est une question de toi, Mémé, le patron, et pas d'un stagiaire. On parle d'un résultat pour le match retour, le match là. À 2-1, quand tu fais 2-2, tu peux toujours te dire, et tu aurais pu prendre 3-1, que c'est un bon résultat. Moi, je me projette sur le match retour, et match nul chez toi, même si tu vas chez un Bayern qui connaît des difficultés, sur ce que j'ai vu, ils ont fait des actions quand même assez dangereuses, un collectif, ça va être très dur de gagner à Munich.
Ok. Et on file vers Dominique Sebrac.
Bonsoir, mais contrairement à ce qu'a dit Eric, en fait, le favori de ce match, c'était plutôt le Bayern, parce que c'est l'histoire qui parlait, et puis c'est parce que c'est un club qui est complètement à la rue en championnat, qui a encore perdu ce week-end, et qu'il lui reste plus que cette compétition pour essayer de sauver sa saison. Et donc, le favori absolu, c'était le Bayern, et ça s'est vu d'ailleurs assez vite, puisqu'ils ont mené 2-1, et là, tout le monde a trouvé ça absolument logique devant sa télé, en se disant, bah oui, c'est la force du Bayern, qui arrive à toujours à s'extraire des situations, et puis voilà, et tout d'un coup, on a vu Arsenal revenir par le jeu, par un but complètement fabuleux, qui maintient ce match retour complètement incertain. Donc c'est un super résultat pour Arsenal.
Il n'est pas d'accord avec vous, votre voisin Ludovic Obraniak, qui répond non, pourquoi?
Je savais pas que c'était l'histoire qui jouait à la place des joueurs, c'est plutôt la forme du moment. Moi je vois une équipe du Bayern qui est quand même à 14 ou 16 points du Bayer Leverkusen, c'est du jamais vu. Donc c'est une équipe qui est plus que prenable actuellement. Et à l'inverse, Arsenal est en train de tenir la dragée haute à des équipes comme Liverpool ou Man City. C'est peut-être leur année, ils vont peut-être finir champions. Donc excusez-moi du peu, ils mènent au score, ils sont à la maison. C'est pour moi un mauvais résultat pour Arsenal.
Ok, il vous reste 7 secondes, mais il y a 4 dixièmes pour la partie adverse. Avez-vous un argument maintenant, Jo?
Allô, ah bah, cerveau.
4 dixièmes, 4 dixièmes.
Allô, cerveau.
Il vous reste 4 dixièmes.
Surtout qu'il faudra qu'on explique pourquoi il n'y a pas pénalty sur Harry Kane.
Merci. Voilà. 7 secondes pour la partie adverse. Merci. 7 secondes pour la partie.
Les codes du match ne veulent rien dire, mais ils étaient à 4,40 Munich et les autres, ils étaient à 1,95. Et le Bayern de Munich n'a que ça à jouer. Le Bayern n'a que ça à jouer.
Il fallait que tu ailles chercher les codes pour t'en sortir.
Eh oui. Ah, c'est son côté coteur. C'est son côté velours coté.
Les codes, il les a regardés à quel moment?
Comment?
Non, les cotes, il les avait en tête comme ça?
Bah, toujours.
Il connaît par cœur.
Bah, ouais. Voilà. Tu sais pas, voilà. La cote,
c'était 4-20. On a Winamax, on a d'autres.
4-20, le nul.
Betclic et Unibet, voilà. Quand les marques sont citées, il faut en citer deux autres, sinon on a des problèmes avec l'ARCOM.
Betson, c'est eux qui sponsorisent.
La
Betson?
Oui. Eh ben alors? Finalement, c'était pas mal ce petit super duel.
Si tu le dis.
T'as vu de la magie? C'était un duel de légende?
Oh, dis donc.
Pas un duel de légende. Il y a des moments creux.
Oui, mais il y a des rebondissements.
Après, ça, oui.
On est passé devant.
Mais on rigole bien. Mais plutôt Joe et Dominique, je vais dire. Parce que, enfin, moi, je pense qu'Arsenal joue le titre. Alors, je ne dis pas qu'il laisse tomber, qu'il est en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est prestigieux, tout ça et tout. Je pense qu'il joue au titre. Maintenant, le Bayern a peut-être laissé passer sa chance. Arsenal a montré à City, à Manchester contre City, qu'ils peuvent être derrière, tu vois, et bien défendre. Et là, avec moins d'espace, peut-être le Bayern, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace. Mais, comme tout le monde, on était 80% les yeux rivés sur le match de légende, et 20% machin, donc on n'est peut-être pas très objectif. Après, le résultat pur, comme ça, si tu fais match chez toi, mais je pense que c'est pas si mal.
On n'a pas assez de recul sur la règle qui a changé il y a deux ans, MMA, sur les buts à l'extérieur. On n'a pas assez de recul pour savoir ce que sache. Comment ça, ils vont aborder
le match. Est-ce qu'un match nul à domicile n'est pas si mal?
Alors, c'est 0-0.
Non, mais alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'avait pas de recul, mais on va dire le résultat acquis au match aller est généralement confirmé au retour.
Mais ça, c'est déjà pareil avant, avec la règle avant.
Mais là, le match nul, pas forcément.
Si. Avant, c'était assez établi que quand tu prenais l'avantage.
L'avantage?
Oui, quelle que soit la règle sur le but à l'extérieur.
Mais enfin,
Là, je trouve que c'est comme un 0-0, en fait, c'est le match ce soir.
Dom,
2-3-3. C'est parce qu'ils vont
Dom, ce week-end, Didier dit ils vont jouer le titre, ce qui est possible avec un calendrier compliqué à Arsenal. Ils vont jouer des gros. Eux, le Bayern, ils lâchent tout. Ils se préparent. Donc, ils ont un avantage de fraîcheur, de récupération. Ils peuvent préparer le match.
De motivation.
Et ils ne jouent que ça.
Ouais.
Donc, toi, tu es en train de me dire que Arsenal, qui joue le titre, ils ont un point d'avance face à Liverpool et City. Ils vont enchaîner les matchs. Donc, bon, ça arrive vite. Il n'y a que
Bayern,
ce week-end.
Je confirme que le Bayern n'a plus que ça à jouer. Donc, c'était le favori. Et donc
non, il n'était pas le favori, Arsenal. Je suis désolé de te dire. Tu ne peux pas être favori.
Le Bayern.
Non, le Bayern ne peut pas être favori. Toi, tu n'en as rien à foutre des cotes, mais tu ne peux pas être favori. Quand tu es premier. Non, mais laisse-moi terminer. Quand tu es premier du championnat d'Angleterre et que tu as fait 0-0 à City dans un match cadenassé où on s'est fait chier, eh ben, c'était Arsenal le favori. Okay. C'était quand même pas le Bayern qui est à 12-13 points de Leverkusen.
Ok, 16 points de Leverkusen. Tout augmente.
C'est une compétition.
Non, mais j'adore quand on donne les arguments de dire quand les mecs piochent un peu en Ligue des Champions, ils jouent le championnat.
Ouais.
Et puis le Bayern ne joue plus le championnat, donc ils ont que la Ligue des Champions. Donc
ça m'étonne que vous n'avez pas relevé l'argument.
Non, moi, je trouve ça hallucinant. Quoi.
Pourquoi
c'est un argument qui justifie des résultats que moi, pour moi, ça n'a aucun point.
Ah,
en fait.
Ah ouais, vous trouvez
non, quand tu vois City l'an dernier, ils arrivent à faire Cup, Championnat, Ligue des Champions, les mecs, on n'a jamais parlé. Ah,
C'était une grosse machine.
C'est difficile.
Et Arsenal, ils n'ont pas été champions depuis la nuit des temps. Déjà, ils retrouvent la Ligue des Champions. Ils sont obligés chez eux de faire le jeu, si tu veux, parce que déjà, c'est un peu dans leur style. Et en plus, ils sont chez eux. Mais tu as vu toutes les occasions. Enfin, ça nous a donné l'impression. Toutes les occasions du Bayern, quoi.
Oui.
Non, mais donc, ils s'en sortent pas mal. Pour eux, tu vois. Et je pense pas. Tu les as vus à Porto, ils ont été nuls. À l'arrache, ils ont gagné.
Ils ont perdu 1-0. Même s'ils ont dominé.
Non, ils n'ont pas dominé du tout. Ils n'ont rien fait, Arsenal. Ah non. Regarde un peu les matchs. Rien. Ne dis pas que. Alors, si tu les vois, mais avec des lunettes.
Ils ont deux occasions, Arsenal. Mais non. Ils marquent à la 94e. Oui, le Portugais sur une frappe.
Ah,
mais je l'ai vu.
Mais moi aussi, mais ils ont été nuls. Et eux-mêmes, ils ont reconnu.
Ils ont gagné à Portugais.
On ne comprend pas comment on a pu être aussi nuls.
Eric, tout à l'heure, vous avez dressé une ordonnance, donc docteur Blanc, à votre patient Didier Roustan. Le docteur Roustan vous dresse une ordonnance.
Il regarde tous les matchs de Manchester City.
Voilà, vous allez regarder les matchs d'Arsenal. Mes petits, on est déjà très à la bourre. On va évoquer le Paris Saint-Germain-Barça, mais là, sous l'angle de la sécurité, une sécurité renforcée au Parc des Princes, car on tremble, il y a des menaces d'attentats.
Des comptes de l'État islamique ont posté des messages invitant à s'en prendre aux 4 quarts de finale aller de cette Ligue des Champions à Paris, Londres et Madrid. On y voit un combattant masqué, muni d'un fusil d'assaut, qui pose devant les 4 stades. Rien à signaler pour les deux matchs de ce soir, bien heureusement. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a quand même anticipé pour demain. On va l'écouter.
En ce qui concerne le match qui aura lieu en région parisienne, le préfet de police avec lequel je me suis entretenu très tôt ce matin a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre, sans rentrer dans le détail, pour évidemment être au rendez-vous d'un renseignement préventif, s'il le faudrait, curatif.
L'autre quart de finale demain oppose l'Atlético de Madrid qui reçoit le Borussia Dortmund.
Et les regards seront tournés vers Antoine Griezmann, diminué un petit peu par les blessures ces derniers temps. Diego Simeone espère pouvoir compter sur lui à
100%. Il a joué contre l'Inter après avoir fait un énorme effort pour être présent dans le match et il a marqué le but de l'égalisation. Ensuite, il n'a pas joué depuis sa titularisation contre Barcelone et il est revenu dans le match contre Villarreal en étant beaucoup mieux. Et en faisant une bonne première mi-temps. Ensuite, nous avons compris que nous avions besoin d'un remplaçant en attaque. Et Andrés Correa est entré et s'est très bien débrouillé. Nous avons besoin du meilleur Griezmann, sans aucun doute.
Eh bien, c'est ce qu'on vérifiera demain. Les qualifs de l'Euro, les Bleus d'Hervé Renard, deuxième match et deuxième victoire. Cette fois-ci, une victoire à qui ? Contre la Suède.
Les entrantes ont fait la différence en toute fin de match sur un centre de Karchaoui côté gauche récupéré par Katoto qui dévie le ballon de la tête. Wendy Renard suit de près et marque en force. Elle devient ce soir la cinquième meilleure buteuse de l'équipe de France avec 38 buts. 1-0, succès de prestige puisque c'est le premier de leur histoire en Suède. Les Bleus s'envolent en tête du groupe 3, la Suède est troisième.
Finale aller de l'Eurocoupe, victoire de Paris contre Bourg-en-Bresse.
Paris large vainqueur, oui, à la Adidas Arena. Ils prennent une sacrée option dans cette première finale 100% française de l'histoire de la compétition. Victoire 77-64. Dès le début, ils ont tué le suspense avant de gérer la fin du match et de mettre une première main sur le trophée. La deuxième peut-être au match retour, à moins que Bourg ne se ressaisisse. La JL jouera à domicile, ce sera ce vendredi.
Il y avait une victoire, il y avait un match de championnat opposant Monaco à Limoges et Monaco à écran. Les Limougeaux.
Oui, Limoges a reçu une gifle sur le rocher, c'est le cas de le dire. Match à sens unique, sur chaque carton, les Monégasques marquaient au moins 20 points et dominaient largement des deux côtés du parquet. Ils l'emportent 94-56, une belle façon de se rattraper aussi après les deux défaites d'affilée contre Saint-Quentin puis Nancy. Mention spéciale à Elio Kobo, auteur de 25 points.
On l'a vu, Mike, j'aime surtout. Entrée réussie pour Gaël Monfils au tournoi de Monte Carlo.
Pas de tout repos non plus. Cette entrée, il perd le premier set face au lucky loser australien Alexander Vukic. Il prend le deuxième set ensuite, mais il est mené 4-1 dans le troisième avant de renverser le cours du match. Il l'emporte 7-5. Ce ne sera pas facile non plus au deuxième tour puisqu'il affrontera Medvedev. Arthur Fils, lui, n'a pas su se défaire de Lorenzo Muzzetti. La marche était trop haute pour lui. Il perd le premier set, commence bien le deuxième par un jeu blanc, mais il se fait tout de suite reprendre dans la foulée. Il s'incline donc 6-3, 7-5 et c'est l'Italien qui continue sa route. Il affrontera Djokovic, l'Italien qui n'a pas perdu de temps pour son entrée au lice. Le numéro 1 mondial a largement dominé le Russe Roman Safiulin. En moins d'un quart d'heure, il menait déjà 3-0. Mmh. Victoire express en deux manches sèches. Sa première sur terre battue cette saison. Score final 6-1, 6-2. À noter le forfait de Carlos Alcaraz. L'Espagnol n'est pas suffisamment remis de sa blessure au bras droit. Il a annoncé sur Twitter qu'il se retirait du tournoi. J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute pour essayer de récupérer d'une compression du nerf médian. Mais ça n'a pas été possible et je ne suis pas en mesure de jouer.
Dimitri Pascu. Un espoir de médaille pour les JO de Paris contre les positifs aujourd'hui, c'est ce qu'on a appris.
C'est de l'athlétisme, information, France Info et le Parisien. Le Français de 36 ans, médaillé de bronze aux 110 mètres haies aux JO de Rio en 2016 et champion d'Europe de la même année, a été contrôlé positif aux stéroïdes. L'Agence française de lutte contre le dopage l'en aurait notifié vendredi dernier. Il tentait depuis 2 ans d'obtenir sa qualification pour Paris 2024. Il n'avait pas réussi à se qualifier pour ceux de Tokyo en 2021.
Parce qu'un espoir de médaille, je me suis peut-être un petit peu enflammé. Merci du rectificatif et des précisions, Virginie. Des nouvelles à présent de Jonas Vingegaard, 5 jours après sa chute au Tour du Pays Basque. On en a beaucoup parlé de cette chute.
Le Danois a été opéré avec succès de la clavicule gauche, ça va. Il va rester encore quelques jours en observation. Sa date de retour, néanmoins, reste floue. Son équipe a précisé qu'il allait désormais passer les prochaines semaines à se rétablir sans savoir combien de temps cela prendra. Seule certitude, à 3 mois du Tour de France, eh bien le double vainqueur sortant ne se rendra pas au stage de préparation en altitude prévu avec son équipe en Sierra Nevada au mois de mai.
Merci beaucoup Virginie. Paris Saint-Germain-Barça, c'est donc ce soir, puisque nous avons passé le cap de minuit. Cette affiche est le symbole pour le Paris Saint-Germain, des matchs à enjeu avec une pression maximale. Par le passé, cette équipe de Paris a semblé un peu patraque, un peu paralysée, un peu inhibée à de très nombreuses reprises. Alors l'émotivité dans les grands matchs, c'est un thème qui a été abordé aujourd'hui en conférence de presse. Luis Enrique et Danilo Pereira l'ont évoqué. On y va pour ces extraits.
J'espère que l'ambition sera plus grande que la pression. Nous n'avons aucune pression. Aucune. Nous sommes très excités pour jouer à ce niveau et se qualifier pour le prochain tour.
Je sens que la pression est, c'est un peu différent parce que le coach aussi nous transmet de sérénité, de la calme. Je pense que c'est important pour des matchs comme ça. On doit être calme et tranquille pour arriver à un match et faire donc... Qu'est-ce qu'on doit, on doit faire d'être tranquille et penser seulement au jeu.
Calme, calme. Pour battre le Barça, Paris doit-il avant tout gérer ses émotions? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Dominique, face à Ludovic. Dominique, vous commencez. C'est oui. Le docteur Aubagnac vous contrera. Il a répondu non. On écoute vos arguments, mon cher Dominique.
Oui, pour moi, les huitièmes de finale servent à établir la différence de niveau qui est induite au tirage au sort. C'est-à-dire qu'on sait que Copenhague est moins fort que City, que Leipzig est moins fort que le Real, que la Real Sociedad est moins fort que Paris, et ça se confirme. Les quarts de finale, c'est autre chose. Ça convoque autre chose. On voit que ce soir, les équipes sont assez proches, et demain, c'est impossible de savoir qui est plus fort entre Paris et Barcelone, donc ça se joue sur un autre terrain. Et d'autant plus que c'est le Paris Saint-Germain, et que Paris Saint-Germain a un passif dans sa compétition, où il a psychologiquement souvent déraillé. Donc évidemment que l'émotivité, la gestion des émotions sera primordiale.
Ok, non, Ludovic Aubagnac, pourquoi ?
Ça jouera, mais je trouve que le passif, il est plus vraiment incarné au Paris Saint-Germain. Il y a plus énormément de joueurs qui incarnent justement la loose et tout ce qui a été vécu par ce club-là dans cette phase dans ces quarts de finale ou dans ces huitièmes de finale. Après, moi, je trouve que ça se jouera sur le terrain tactique. Il y a un entraîneur qui est formé Barça, joue contre un joueur entraîneur qui est formé Barça. Celui qui a les clés de l'équation, c'est Luis Enrique. Il peut pas mieux connaître cette équipe. Il la connaît sur le bout des doigts. À lui de nous pondre quelque chose qui va faire basculer la rencontre.
Ok. Pour vous, c'est stratégique, c'est tactique, et pour vous, c'est dans les têtes.
C'est toujours tactique.
Oui ou non ? Vous allez sur le site l'équipe. Oui ou non, président ?
Plutôt Ludovic, parce que alors peut-être en fonction du match aller, s'il y a un bon résultat, ça peut être primordial pour le match retour, je te dirais. Mais là, effectivement, ça en fait partie. Mais il y a beaucoup moins de joueurs, et je dirais, il doit rester que Marquinhos pour le 6-1. Le Real Madrid, bon, il y a Donnarumma, Mbappé, il y en a un petit peu plus. Je pense qu'il faut toujours être capable de gérer ses émotions. Paris n'a pas encore de certitude, puisque la Real Sociedad, c'était un tirage plutôt favorable. En plus, il y avait beaucoup de blessés. La première mi-temps, tu es un peu largué. Bon, finalement, ça se passe bien, et notamment au retour. Donc c'est juste par rapport à ça, mais à mon avis ça sera plus
au-delà des acteurs qui sont plus là, effectivement il n'y a plus que Marquinhos. Est-ce que tu sens pas que ça peut être la culture d'un club d'avoir cette loose collée au corps, et que quand, si tu regardes les, parce que je pense que tu regardes les confs de Luis Enrique, il essaye depuis le début de saison de changer ça.
Je le regarde comme les matchs de City.
Je pense que dans son discours depuis le début, il dit mais on n'a pas la pression, on n'est pas les favoris,
il le fait très bien. Et c'est vrai que ça a été l'une des failles du PSG quand les Qataris sont arrivés. On est là pour gagner la Ligue des Champions. Ils ont traîné ça comme un boulet. Et après, il y a eu des circonstances un peu bizarres qui ont fait que.
Et il le dit, Didier, aujourd'hui. Il dit j'espère que l'ambition sera plus grande que la pression.
Mais d'une manière générale, là, il t'a dit ça, mais il a fait une interview. Alors, c'était peut-être. Elle était faite par le club.
Oui, sur la chaîne, oui.
La chaîne du club était très intéressante.
Oui, elle était vachement bien.
Où il te dit, mais nous, on n'a aucune pression. Ben au contraire, on est archi motivé, archi excité. Mais il a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il sait que c'est un club qui a une faille par rapport à ça.
Ah.
Mais je pense qu'il l'a bien fait, qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Qu'en plus, c'est pas. On sent pas une chape de plomb du genre putain s'il se qualifie pas contre Barcelone,
c'est la première année où il y a
c'est la première année où
les moins qui
l'abordent. Mais attendez, ça c'est grâce à quoi? C'est grâce à son discours depuis
à Luis Enrique.
Et voilà.
Oui.
Et donc c'est le premier.
Mais grâce à ce travail, je pense que demain c'est pas la suite.
C'est ça qui va changer.
Peut-être au retour. Peut-être au retour. Mais voilà.
Dans quelques minutes. Ils n'ont
pas écrasé, mais je pense que le mec.
Dans quelques minutes, ils entreront en piste. Dans quelques minutes, ils entreront en piste. Le coin. Dans quelques minutes, ils entreront en piste. Le coin gauche de l'équipe du soir.
Ah, ils sont là.
Éric Blanc et Johan Micou qui vont tout donner.
Ils parlent du Barça, c'est rare. Ça.
On peut aller sur la compo PSG direct. C'est pas la
peine. Allez, à tout de suite. Et oui, c'est du solide. Regardez ce pourquoi. Pourquoi ce feu de cheminée? Non, on est fâché de Giovanni Castaldi. Mes amis, regardez ce qui se passe. La cravate feu de cheminée Didier fait fureur sur les réseaux sociaux. En top tweet, la cravate
de Didier. Il y a encore des gens qui ont du goût dans ce pays.
Ah oui.
Il y a plus de 70 ans.
C'est notre doudou Didier. Et c'est cette cravate feu de cheminée qui fait. C'est la nouvelle tendance mode. Et voilà, mes petits.
Magnifique.
Mes petits,
c'est chaud.
Ah oui, c'est de la marque.
Bon, mes amis, on a fait un petit débat à la pause. Le débat sur PSG Barça, sur le côté, la gestion des émotions. Eric et Johan ne veulent pas en parler. Mon Didine, c'est pas dans votre contrat. On va passer à la compo. On va passer à la compo concoctée par Luis Enrique. Donnarumma dans les buts. Surprise peut-être en défense. Marquinhos arrière droit. La charnière serait Lucas Hernandez, axe droit. Beraldo, axe gauche. Deux gauchers. Nuno Mendes, Vitinha, Zairema et Ruiz dans l'entrejeu. Dembélé en 9, ou non, en 10, ou en 9,5, pour, on va dire, attaquer un peu l'axe de la défense. Kanginli, Mbappé, est-ce que vous êtes emballé par cette compo? Est-ce que vous êtes partagé? Les gars de droite, vous avez la main. Qui est emballé? Qui est partagé?
C'est officiel, vous êtes de droite.
Moi, j'aurais préféré Ramos devant en pointe et mettre peut-être Mbappé sur un côté. Parce que je trouve que Ramos, il est très précis, très clinique devant le but. Et j'aime bien aussi son jeu, où il peut combiner avec les coéquipiers autour. Donc j'aurais fait ce changement-là. Après, je trouve que ça, par rapport aux joueurs qui sont
Dembélé à droite.
Ouais, c'est ça. Mais, oui. Ouais, mais sinon tu.
Ah, vous êtes classique.
Tu laisses,
hein,
tu laisses les deux dans l'axe.
Vous êtes classique.
Non, tu aurais pu faire ça aussi.
Ah oui, tu laisses les deux dans l'axe.
Attaquant et Dembélé. Ben, après, c'est son choix, ça. C'est le choix du coach, mais derrière, après, il fait avec ce qu'il a, quoi. Mais je trouve que c'est l'équipe la défense la plus solide.
Moi, je suis emballé parce que.
Il y a Danilo. Danilo que j'aime bien, moi, en défense.
Oui, moi aussi, j'aime bien Danilo, mais j'aime c'est vrai qu'il a une préférence pour.
On met pas face à une attaque comme celle du Barça, quoi.
Pourquoi?
Qui est quand même hyper rapide. C'est pas vraiment la première qualité de Danilo, qui est plutôt quelqu'un qui va être dans le duel et qui court quand même comme un train de pomme. Donc, je préfère la tonicité de Lucas Hernandez. Voilà. Et puis après, on sait que
c'est. Et Beraldo, tu trouves qu'il va vite?
Non, malheureusement, non, mais bon, entre Danilo et Beraldo, si tu veux.
Beraldo, moi, enfin, j'ai vu le match
du Brésil.
Commenté Brésil-Espagne. Le petit Yamal, Beraldo était dans cette position.
Il l'a détruit.
Il l'a massacré.
Ouais.
Et il le massacrera. Enfin, tu vois, alors, bon, comme Thiago Mendes, l'arrière-gauche brésilien, c'était pas une fusée. Hein.
Ouais.
Thiago Mendes peut faire le boulot en amont. Mais s'il arrive sur Beraldo, c'est vrai que Beraldo. Alors, à la limite,
c'est difficile. Et s'il arrive sur Danilo,
Beraldo,
s'il arrive sur Danilo.
Pour l'instant. Non, mais il arriverait sur Hernandez. Danilo, il serait à droite, là, pour le coup.
Ouais.
Si tu es Hernandez, il est quand même...
Est-ce que vous avez entendu ce que nous a dit Giovanni tout à l'heure sur, on va dire, cette équipe-là? Elle peut aussi se transformer en 4-2-2-2, là. Vous savez, c'est cette espèce de tranche de pain de mie.
C'est-à-dire que c'est trois avec
un qui coulisse.
Avec Nuno, Mendes, voilà, qui est dans un petit peu.
D'habitude, c'est Hakimi, qui est suspendu. Ouais. Donc, ça va être Nuno Mendes.
Ouais, Nuno Mendes, si tu l'as à mal, alors c'est un diable.
Mais t'as le droit d'attaquer aussi, t'as le droit d'obliger.
Non, d'accord.
T'as le droit d'obliger.
Oui, les pousser, bien sûr.
Comme Naples avait réussi un petit peu.
Oui. Mais est-ce que c'est pas. Je veux dire bien de, je veux pas dire leur laisser le ballon pour autant, les pousser, d'accord. Mais par rapport au contre, puisque malgré tout, on a vu que c'est dans les transitions que le PSG dans ce match-là et tout est plutôt fort. Mm-hmm. Quand ils dominent et qu'il y a peu d'espace, Mbappé, Dembélé, ils s'en sortent pas vraiment, tu vois.
Ouais.
Les laisser un petit peu venir pour profiter de Dembélé, de Mbappé, de Nuno Mendes aussi en contre-attaquant,
mais
tu vois.
C'est dangereux ton truc parce que
Rafinha,
Lewandowski, Yamal, c'est des attaquants qu'ils n'ont jamais rencontrés cette saison, ni contre Newcastle, ni contre contre Dortmund, ni contre la Real Sociedad. Donc ça peut leur faire beaucoup d'un coup.
Et non, donc, et tu sais que. Raison de plus pour un peu les attendre, si tu veux.
Mais les attendre pour les contrer.
Pour les contrer.
Oui.
Parce que c'est plutôt défensivement que Barcelone. Parce que maintenant, ils sont meilleurs qu'au moment du tirage.
Est-ce que Cédric n'est pas trop dogmatique dans ces moments-là? Est-ce qu'il n'aura pas absolument la possession? Il ne jouera jamais la transition rapide? Parce que tu as peut-être raison.
Il la joue jamais, mais il n'empêche. Ouais. Je me souviens même d'une action où Luis Enrique, c'était rigolo, parce qu'il dit non à Hernandez, c'est ce que je.
Balance pas tout de suite.
Bim, 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 et il y a but. Oui. Donc,
l'événement
prouve en tout cas.
Il a failli avoir but.
Ouais. Ah, il a failli avoir but contre Dortmund. Virginie, pour faire un match, il faut être deux. La compo du Barça, probable, là encore. Qu'est-ce que nous concocte Xavi?
Alors, il partirait sur un 4-3-3 a priori. Arojo, Koubarsi en charnière centrale. Cancelo, Koundé dans les couloirs. De Jong, Gundogan dans l'entrejeu avec Christensen en soutien un poil plus bas. Et le trio offensif, Rafinha, Yamal plus Lewandowski en pointe.
Moi, je pense que il va peut-être mettre Arojo. Il l'avait fait contre Vinicius Junior, qui a les mêmes caractéristiques que Mbappé un petit peu. Arrière droit et Koundé dans l'axe. Parce que Koundé.
On inverse, là?
Oui,
Koundé Arojo, là.
Voilà, et Arojo. Parce que Alojo, il est très rapide.
Ouais.
Il est très. D'ailleurs, Vinicius avait eu beaucoup de mal. Et Koundé, je pense qu'avec Mbappé, déjà que c'est pas arrière droit, on a vu que bon, c'est compliqué pour lui. En plus, Mbappé va avoir un ascendant psychologique, quoi. C'est ton capitaine de l'équipe de France. Tu vas pas le tacler mort de faim, risquer de le blesser. Alojo, c'est un Uruguayen. Il est pas là pour faire mal. C'est pas ça que je veux dire.
Enfin, il n'aura pas derrière pensée. Il n'aura pas.
Et souvent, Xavi, quand il y a eu ce type d'attaquant, il a mis Alojo et Koundé. Ouais, boîte à deux, mais boîte à deux. Si Koundé, chaque fois, il passe à travers, boîte à deux.
Rico,
ça redevient du contre-un.
Rico, dans le scénario que nous propose
il aura trop un ascendant
Didier, sur Koundé. Koundé à Rojo, est-ce que vous avez déjà vu les permutations?
On l'a souvent vu puisque ça a duré très longtemps, mais maintenant il ne le fait plus.
Plus
et, la oui, dernière fois contre le Real, il l'a fait.
Il y a Koubarsi, oui, mais le Real, il y a longtemps. Koubarsi, qui a 17 ans, ouais. Il lui faut un taulier.
On l'a vu contre Naples.
Il est mieux. Non, ce qu'il y a, c'est comme ils ont perdu Baldé à gauche, ouais. Ils ont mis Cancelo à gauche.
Cancelo
qui est droitier, et Koundé se retrouve arrière-droit. Moi, j'ai peur. Maintenant, je peux me dire qu'il a un match à jouer, il revient en France, il joue le capitaine de l'équipe de France, il faut qu'il sorte le gros match. Il n'a pas été bon en début de saison pendant minimum 4-5 mois.
Et maintenant,
et là, depuis un mois, il est meilleur.
Ouais.
Il revient.
Contre Naples, il était bon.
Il est meilleur. Maintenant, ça suffit.
Koundé,
ça,
oui.
Il a été meilleur depuis un mois. Mais c'est pas... Le Barça oui. prend des buts. Donc aujourd'hui, ils sont friables, c'est clair et net. Après, pour la défense du PSG... Zaire Emery, a priori, ne serait plus dans les papiers. Donc, si Marquinhos y va, il va être en face de Rafinha. Rafinha, c'est très bien. C'est deux Brésiliens.
Aussi, ouais.
Les uns contre les autres. Ils se connaissent en sélection. Là, on va bien voir si Marquinhos à droite, il va être dans l'axe. Autant il est sûr.
Non, Marquinhos, il à droite. Là, pour le coup, c'est lui qui prendra l'ascendant sur Rafinha.
Moi, je crois pas.
Moi, je pense. Et Rafinha, c'est pas terrible, Rafinha.
Yelkiz.
Rafinha, c'est pas terrible. Marquinhos, il va vite, hein.
Oui, mais je pense qu'il peut.
Quand il était arrière droit sous Laurent Blanc, tout ça et tout, il était très bon.
Après, il y aurait eu, mais il ne le fera pas, Ferran Torres ou João Félix en haut à gauche, mais il ne le fera pas.
Bon. Attention, le générique du jeu a retenti.
Ah.
Alors. Ce soir, il y avait Real City.
Ouais. Bien sûr.
Le thème, j'ai marqué lors d'un Real City.
Très bien.
Il y a eu beaucoup de matchs, hein. Beaucoup, beaucoup de matchs. Didier, vous avez les Joker.
Ouais.
OK.
Joker.
Vas-y.
Voilà, attention. J'ai joué ce soir, n'y allez pas.
Il a joué ce soir.
J'ai joué ce soir. Je dis juste
il
un
était
conseil.
Là. Il était là.
Vous lancez pas parce que le deuxième indice. Bon, Valverde, il s'est lancé et tout ça. Le deuxième indice, vous êtes éliminé. Mais ce n'était pas lors de Real City.
Bah oui.
Je vous ai dit.
Vous lancez ce soir le match du Real City.
Non. J'ai joué ce soir.
Bon, remettez-moi.
Mais ce n'était. Il active le Joker, Didier. Mais ce n'était pas lors du Real City.
De ce soir.
Ce n'était pas lors du... Il a joué ce soir. Il y avait un autre match ce soir. C'était pas ceux de France, mes petits. Hein, c'est pas les filles d'Hervérone. Hein.
Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus. Bravo, mon Ricky. Et voilà, Honda. Voilà. Il a joué à City, Gabriel Jesus.
Oui,
il
joue
ce soir. Lors de l'élimination cruelle en 2022, je suis le seul buteur citizen au retour. Vous savez, le show Karim Benzema. Voilà. Ben, ils perdent le match 3. Hein. Mais il y a un petit gars de City. Mahrez, 4 points pour Johan Micou. Là, il est content. Là. Regardez, là. Hein. Attention, mes
petits. Tout de suite, j'élimine Johan.
Je suis moins content.
Je n'ai marqué qu'un seul but contre City. Le gars a marqué qu'un seul but contre City. Mais de qui s'agit-il?
Valverde.
Federico Valverde. Vous êtes éliminé. Pourtant, j'en ai inscrit 450 sur le maillot du Real. Ah. Il a marqué un but.
Modric,
450 buts sous maillot.
Ah non, oh putain, oh, pas Modric. Putain. Non, remettez-moi.
C'est Ronaldo.
Benzema.
Ronaldo.
C'est Ronaldo. Bah oui, vous êtes éliminé. Benzema, vous êtes éliminé.
C'est
il vous reste 450
buts. Une question, moi je peux pas jouer. Ah, une question encore.
Pourquoi vous pouvez pas jouer?
Donnez un indice.
Il vous reste que Ludo. J'ai remporté 4 fois la C1. Ludo, il écoute pas en fait.
Et ben alors.
Ronaldo.
Et Roli.
Ludovic, vous avez un nom à nous donner ou pas?
C'est une péninsule.
Et 5 fois le ballon. Comment? Bah oui, Cristiano Ronaldo. Bah vous marquez qu'un point.
Un point.
Ah bah si.
Tranquille.
Bah non, bah si.
Je l'ai dit au Gérard.
Bah vous l'avez dit, vous l'avez dit.
On limite la
casse.
Ludo, concentrez-vous. Revenez, vous avez marqué un point. Vous êtes dans le match. Ludo, vous êtes dans le match. Mon doublé crucifix, c'est
Benzema.
Benzema.
Tu as dit Bernardo Silva.
Bernardo Silva, vous êtes éliminé. Benzema. Oui, ben vous êtes éliminé. Rodrigo, bonne réponse. C'est 4 points. C'est Rodrigo. Benzema marque le 3e but. Rodrigo marque 2 buts sur les services de Benzema. Et oui, mon Ricky.
Tu peux pas éliminer Joe.
J'élimine Joe.
Non, toujours pas.
J'ai marqué mon premier but en Ligue des Champions à 19 ans en 2019.
Foden.
Comment ?
Foden.
Ouais,
non, j'ai dit un point.
Ah, Ludo, on me dit que c'est Ludo. C'est Ludo qui a gagné.
Sérieux, quand même.
C'est Ludo.
Ah, on me dit que c'est Ludo.
Ludo.
Je l'ai dit avant,
j'ai
dit Foden après.
C'est Ludo.
Allez, revenez, vous êtes en course pour la victoire.
C'est Ludo.
Asseyez-vous. Oui, il y a la vidéo.
C'est Ludo.
J'ai marqué un doublé contre le Real.
Bernardo Silva,
4 points supplémentaires pour le Devico Brad.
En plus, il passe devant.
Je joue Ludo.
Lorsque je marque en 2012, je suis remplaçant en début de match. De qui s'agit-il ? Ouais, en 2012. Je marque un. Ouais, parce que Di Maria, c'était pas mal, mais c'est pas ça.
Mais attends, c'est quoi le thème ?
J'ai marqué lors d'un match City-Real City.
Ah, d'accord.
Donc je marque en 2012, parce qu'ils se sont rencontrés en 2012, et il est remplaçant en début de match. Ouais. Mon passeur décisif sur ma frappe en pivot s'appelle Angel Di Maria. Frappe en pivot, ça vous rappelle quoi comme style ?
Agüero.
Non. Par la suite, j'ai planté 5 autres pions contre City. Donc je suis plutôt côté Real.
C'est pas Benzema ?
Ben c'est Benzema, 2 points pour Didoun. Chez Ballon d'Or, France Football 2022, Karim Benzema. 2 points pour Didoun. J'ai marqué en 2012 lors de la première double confrontation Real City. Eh oui.
2012.
Ouais.
Agüero.
Agüero, 4 points pour tonton Ricky.
Tu l'as dit.
Ben oui, mais sa sœur, là, sa sœur.
Je l'ai dit.
Sa sœur au bon moment.
Bon, Dominique.
En 2023, je marque d'une frappe lointaine.
Rodri,
c'est pas ça.
Kroos,
c'est pas ça. C'est dommage parce que c'est son style. Depuis mon arrivée à City, en 2015, j'ai marqué tout pile 100 buts.
De Bruyne.
De Bruyne. 3 points supplémentaires.
Voilà, on arrête. C'est merci, messieurs.
Et le dernier pour la route. Et le dernier.
Bien sûr.
Avant ce soir, j'étais le dernier buteur d'un Real City. 4-0 l'an dernier, vous savez. Le dernier buteur. Bernardo Silva, c'est pas lui.
Grealish.
Non. Vous êtes éliminé.
Oh,
je suis champion du monde.
Alvarez,
3 points supplémentaires.
Vous avez bien fait. On va voler 4 points.
Mais on pas lutter.
Je veux la voir, la vidéo.
Vous avez bien fait de rester. Voyez ce caractère un peu soupolé et ténébreux. Ça vous dessert parfois. La une de l'équipe, Virginie, je vous donne la main.
On va sortir le grand jeu dans ce choc entre artistes de très haut niveau pour espérer prendre une option sur la qualif pour les demi.
Et on se quitte sur le tube des années 93, Alanis Morissette. J'adore cette chanson, on vous embrasse. À demain et allez Paris.